Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, donc on fait cette interview par téléphone. C'est une émission qui passe tous les premiers mardis de chaque mois sur Radio Libertaire. Je suis Mehdi, je suis syndiqué à la CNT, c'est le créneau CNT qui passe entre 20h30 et 22h30. Et ce soir, je reçois, ce soir, c'est cet après-midi là au moment où j'enregistre, mais c'est ce
Oui.
soir que va passer l'émission.
D'accord.
Et donc il est 20h30 et puis il est 22h30. Je suis en mode comment dire, dans les conditions du direct, comme on dit. Comment allez-vous?
Bah, très bien, merci et vous.
Oui, on va très bien. C'est devenu presque une blague de se demander comment on va, puisqu'on a pris l'habitude avec ce confinement d'être tout le temps à distance les uns des autres. Et donc
Oui.
de très régulièrement de se poser la question comment on va, et en espérant que personne va nous annoncer que
C'est
l'un ou
mal.
l'autre réponde très mal, ou j'ai le Covid, ou un ami est parti avec la Covid, etc. etc. Donc c'est toujours un peu inquiétant. Donc je reçois ce soir Fanny Lederlin ou Lederlin? Lederlin? Lederlin. On dit d'abord, ok, parfait, Lederlin. Et donc, qui a écrit ce livre qui s'appelle Les dépossédés de l'open space, avec comme sous-titre Une critique écologique du travail. Alors, ce livre est vraiment très, très intéressant, parce que ça met en justement, dans cette période de confinement et de télétravail, ou devrais-je dire, de travail à la maison, un peu forcé, parfois, ça parle à beaucoup de gens. Et donc, je voulais avec vous revenir un peu sur l'époque que l'on vit, et puis aussi dire un peu ce que l'attrait pour peut-être ce télétravail et peut-être en filigrane. D'abord, est-ce que je peux me permettre de vous demander de vous présenter?
Reine de la communication, donc jusqu'à l'âge de 40 ans. Et puis à 40 ans, c'est presque comme si j'avais vu la lumière. Enfin, en tout cas, j'ai décidé de quitter cet univers professionnel, de reprendre des études. Donc, j'ai repris des études de philosophie. Je suis allée en master 1, 2, voilà, sur les bancs de la fac. Et puis j'ai enchaîné avec un doctorat. Donc là, je suis en deuxième année de doctorat en philosophie politique. Je compte, j'espère, terminer tout cela par une thèse d'ici 2 ans.
D'accord, mais c'est un retournement, enfin une reconversion en cours, donc c'est ce que j'entends.
Oui.
J'ai travaillé longtemps dans une société de services informatiques et d'ingénierie informatique, comme on appelait ça. Je crois que c'est services informatiques à distance ou je sais pas trop quoi. Et j'ai remarqué dans les CV que je regardais qu'il y avait souvent vers cet âge-là, en fait, une recherche d'autre chose, quoi. Et souvent, soit des compléments de compétences, soit justement des changements de route. Qu'est-ce qui vous a nourri pour ce
Oui.
changement de route?
Alors, vous avez raison, hein, c'est assez fréquent en effet, et je pense que c'est lié à ce que sont les métiers de la com, hein, qui sont des métiers plutôt plaisants. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de joie à exercer ce métier quand j'avais une vingtaine d'années, 30 ans. Des métiers qui sont très prenants, très rigolos dans le côté créatif. C'est des travaux en groupe. On travaille avec des corps de métiers très différents, les métiers de la production aussi. Donc, il y a quelque chose de très ludique là-dedans, mais c'est des métiers aussi très prenants, avec des amplitudes horaires très grandes. On demande beaucoup aux jeunes salariés dans la publicité. Après, une fois qu'on s'établit un petit peu dans la vie, on a envie d'abord de retrouver un petit peu de confort, peut-être de se consacrer davantage à sa famille, etc. Donc on perd ce côté, je dirais, très, très joyeux et presque colonie de vacances des agences de com, pour finalement ne pas retrouver en contrepartie un sens énorme à son travail. Et même plus le temps passait, en ce qui me concerne, plus je me demandais ce que j'étais en train de fabriquer avec les mots, avec les images. Je me posais évidemment des questions d'éthique liées à mon activité. Et d'ailleurs, c'était ça l'idée au départ, c'était de reprendre des études de philo en me disant, bon, ben, je retournerai dans l'entreprise en pratiquant, pourquoi pas, ce qu'on appelle l'éthique des affaires. Vous savez, c'est toutes les réflexions sur les problématiques de RSE, responsabilité sociétale, développement durable et tout. Mmh. Et puis, très rapidement, en fait, dès les premiers mois de reprise des cours, j'ai compris que je m'étais quand même sacrément radicalisée avec la théorie philosophique et politique. Et que, en fait, j'avais besoin de bien autre chose et d'aller au bout de mes réflexions sur le monde du travail notamment, mais aussi des réflexions critiques sur la société, si vous voulez. Oui.
Mais c'est presque un peu radical, hein, parce que quand je, au fur et à mesure des pages, j'ai une vision qui est très très proche de l'anarchisme, de la CNT, de valeurs qui sont effectivement d'une vraiment un peu opposée au capitalisme, enfin pas vraiment, un peu. Complètement opposé au capitalisme. Et donc, ouais. Et donc là, on sent vraiment un revirement. Et à partir de la communication pour en arriver à ce point de vue-là, ouais. Y a des choses qui ont dû vous nourrir sacrément. Enfin...
Oui, alors il y a un petit élément biographique, mais voilà, c'est juste pour la petite histoire. Quand j'ai commencé mes études, je suis passée par une petite période trotskiste, un peu romantique. Donc j'étais quand même déjà intéressée par ces idées-là, baignée dans une famille plutôt de gauche, des parents 68 ans, enfin bon, il y a tout ce contexte quand même. Mmh. Ensuite, effectivement, tout cela, je l'ai un petit peu perdu de vue. Et je pense que l'élément déterminant aujourd'hui qui explique cette radicalisation, oui, en tout cas théorique, hein, ça c'est certain, c'est la crise écologique qui est devant nous et la remise en cause du productivisme qu'elle induit. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même, quand on réfléchit un petit peu sérieusement à la situation économique et à la situation sociétale dans laquelle on se trouve, je pense que plus encore qu'il y a 30 ou 40 ans, on peut très vite être amené à un rapport très radical et très contestataire à l'ordre des choses.
Donc vous voulez dire que, en fait, quand on y pense vraiment et sérieusement, il n'y a pas vraiment d'autre choix ?
C'est le sentiment que j'ai aujourd'hui, oui. Alors on va pouvoir peut-être étayer tout ça, mais oui, il me semble que la critique aujourd'hui forcément tend vers une forme de radicalité. Mmh. Radicalité d'ailleurs peut-être que le néolibéralisme et les dogmes dominants de ces 30 dernières années a rendu nécessaire, parce qu'à force de capter les critiques qui étaient tendres, je dirais, ou réformistes, eh bien, d'une certaine manière, ces dogmes-là acculent aujourd'hui la pensée à cette forme de radicalité.
D'accord. Alors, du coup, je vais utiliser le terme radical pour parler de féminisme. Et puis, bah, je sais, un homme, c'est toujours un peu bizarre quand il parle de féminisme, mais c'est toujours un peu suspect. Mais il y avait une remarque que je voulais vous faire, parce que souvent dans les livres que je lis, il y a toujours une petite intention, soit dans le livre avec des alternances féminin, masculin, ou sinon vraiment complètement avec de l'écriture inclusive, avec des points médians et tout ça. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment fait l'impasse là-dessus. J'imagine, je pense que c'est une question qui a dû se poser. Et, oui. Et du coup, vous avez pris une option.
Oui, absolument. Je vais vous répondre en deux temps à cette question. En deux temps. La première, c'est que, a priori, j'avais toujours une petite suspicion sur l'écriture inclusive. On me demandait si c'était pas un peu un gadget. Je trouvais ça pas très joli. Enfin, voilà, les arguments un petit peu légers comme ça, mais qui n'étaient pas plus creusés que ça. Et puis, j'ai lu un livre extraordinaire d'un auteur américain qui s'appelle Sarah Schulman et qui a demandé à ce qu'il soit traduit en écriture inclusive en français. Ce livre, c'est « La gentrification des esprits », que je conseille d'ailleurs à tous, qui est un livre absolument extraordinaire sur les années SIDA à New York, dans la période 90-2000, et la disparition de cette communauté suite de la communauté gay, donc suite à ce fléau dans les quartiers centraux de New York, et donc la gentrification ensuite de New York. Je l'ai lu en écriture inclusive, donc, et là j'ai compris. C'est-à-dire que vraiment, le choix de l'écriture inclusive servait complètement le fond du propos. Donc, je comprends qu'on fasse ce choix-là. Ceci dit, je ne l'ai pas fait pour une raison qui est quand même assez importante pour moi, qui n'a rien à voir avec les questions de... Enfin, qui est à côté de la réflexion sur le féminisme, et qui est une réflexion qui est en lien avec ce que je développe à la fin du livre et dont on va sans doute parler à la fin de notre entretien, qui est la notion de bricolage. Je considère, donc bricolage qui est l'une des voies, je dévoile juste là, mais qui est l'une des voies que j'envisage pour sortir des dégradations du travail qui sont les nôtres aujourd'hui. Mmh. Je considère que le langage est une sorte le rapport que nous devrions avoir au langage est celui d'un rapport avec des mots, une grammaire, une syntaxe d'une certaine manière qui nous préexiste, pré-contraint, et qu'il s'agit de se débrouiller avec cela pour construire une pensée subjective. Et c'est parce qu'il nous préexiste, de mon point de vue, que l'on peut espérer être compris, entrer en communication, fabriquer un monde commun par le langage. Donc je me méfie terriblement de toute torsion trop rapide, de toute volonté d'imposer des idées en fabriquant des mots. On peut bien sûr fabriquer des concepts, mais la plupart du temps, les concepts qui sont fabriqués avec des mots existants, simplement dans lesquels on réinjecte un nouveau sens, hein, ça c'est tout le travail de la philosophie, mais imposer des fabrications de mots ou des nouvelles syntaxes lorsqu'on a besoin de faire avancer des idées me paraît toujours la pire des solutions, je dirais. Voilà mon point de vue sur le sujet aujourd'hui.
Ok. Ok. Alors, moi, c'est vrai que c'est un sujet par lequel j'étais arrivé par Nuit Debout, où j'avais croisé un certain nombre de féministes, et en faisant partie de l'équipe communication de Nuit Debout, on n'était pas obligé, mais disons que on nous corrigeait nos posts sur Facebook et Twitter, etc., dès lors qu'on n'incluait pas les deux sexes. Et du coup, de là, j'ai développé une sorte de logiciel qui faisait la traduction, la conversion plutôt que la traduction, la conversion instantanée de d'écriture. Et puis du coup, cette recherche-là était très très riche, puisque ça m'a permis de rencontrer Eliane Villeneau et pas mal d'autres littéraires et d'actrices et de militantes sur le sujet, et ça m'a permis de voir aussi l'intérêt qu'il y avait, et ce que vous avez très bien souligné justement à propos du livre la gentrification des esprits.
Je ne suis pas du tout fermée sur le sujet, hein. je comprends. Par défaut, j'ai choisi de ne pas le faire.
D'accord, mais c'est ok, il n'y a pas de problème. très, très intéressant, parce que dans votre livre, je suis vraiment désolé, j'ai pas pu aller jusqu'au bout, je vais être totalement transparent.
Voilà. De le dire.
j'avoue, et puis après, en préparant un peu quand même cet après-midi, j'ai feuilleté les pages de la fin et je dis, oh, j'ai vu un autre travail possible et plein de titres de chapitres qui continuent à me faire vibrer, puisque déjà le début du livre me faisait vibrer tant par ses références intellectuel que par l'argumentation, et du coup justement je voulais commencer un peu sur les principes qui nourrissent un peu ce livre, et c'est justement ça part un peu de Marx à mon avis. Mm-hmm. et je voulais savoir un peu comment justement vous articulez le monde d'aujourd'hui et la pensée de Marx qui date du 19e siècle, donc il y a presque 150 ans, quoi. Plus. Oui. Ouais, non, ça, 150 ans.
Oui, c'est ça, absolument. Alors, juste une petite précision, je suis pas une experte de Marx. Okay. J'étudie Marx dans le cadre notamment de ma thèse, puisque je travaille sur la critique et que Marx est sans doute l'un des penseurs qui a le plus enrichi cette notion de critique, hein, qui est née avec les Lumières, mais dont il a fait un petit peu le bras armé d'une philosophie en acte, si vous voulez, puisque sa fameuse 11e thèse de Feuerbach déclare la philosophie jusqu'à présent s'est contentée d'interpréter le monde, maintenant ce qu'il faut c'est le changer. Et donc c'est vraiment ça la définition de la critique, c'est une sorte de pensée en acte, une pensée transformatrice, et c'est vraiment moi ce qui m'intéresse dans la pensée, beaucoup plus que la philosophie d'ailleurs en tant que telle. Donc ça, c'est une première chose. D'ailleurs, c'est peut-être un début de réponse à votre question. L'une des raisons pour lesquelles Marx est toujours aussi important de mon point de vue, c'est que la critique n'a pas encore réussi à changer le monde. Et donc, tous ces diagnostics restent, à mon avis, extrêmement inspirants, déjà, d'un point de vue théorique, si vous voulez. D'accord. Ensuite, sa réflexion sur l'économie, sa réflexion sur le capitalisme, Enfin, c'est un monument, quoi. C'est un monument indépassable parce que c'est lui qui a compris l'importance de la question du travail et du travail dans les mécanismes de l'économie, le travail et la marchandise. Et c'est lui vraiment qui a théorisé ces deux grandes notions, qui en a compris les mécanismes, qui en a compris même, qui en a levé les voiles, parce que tous ces mécanismes sont très invisibilisés par le capitalisme. Au XIXe siècle, c'était déjà le cas. Ça s'est encore renforcé, de mon point de vue, dans notre capitalisme du XXIe siècle. Et donc, on a vraiment besoin de lui pour pouvoir bien décrypter tout ce qui est à l'œuvre derrière tous les voiles dogmatiques qui dominent, qui sont hégémoniques aujourd'hui dans nos sociétés.
Oui, effectivement. Et du coup, vous, c'est l'articulation que vous utilisez un peu à travers le livre, justement, sur le travail, l'articulation du travail et la valeur ajoutée. Est-ce que vous pouvez revenir dessus pour reposer un peu des éléments de base à la discussion?
Oui, moi, j'ai eu besoin de revenir sur l'analyse précise que fait Marx de la question du salaire. Parce que ce qui caractérise aujourd'hui l'économie de plateforme, qui est un petit peu le point de départ de mon livre, même s'il n'est pas uniquement consacré au travail digital et à l'économie de plateforme, mais je rentre par ça, ce qui caractérise donc cette économie et ce travail-là, c'est d'une certaine manière un retour à ce qu'on peut appeler le salaire aux pièces. Donc en gros c'est quoi? Ben, c'est le travail à la tâche, eh bien c'est fait pour un chauffeur Uber, eh ben, d'être payé à la course, un livreur Deliveroo c'est pareil, travailleur en micro-travail pareil va être payé à la tâche, je sais pas moi, à la traduction du petit film de 3 minutes qu'il va pouvoir faire, un nettoyeur du web également va être payé à la tâche. Donc ce salaire aux pièces, il le distingue du salaire au temps. Ce qu'on appelle donc le salaire au temps, eh bien c'est le fait de dire ben, je vais travailler pour tel employeur pendant une journée et on se met d'accord avec l'employeur, il va me payer tant et je lui dois, mettons, 8 heures de travail. Ça, c'est le salaire au temps. Le salaire d'ailleurs qui, au XIXe siècle, était à la journée, qui est devenu mensuel plus récemment au cours du XXe siècle. Le salaire aux pièces, au contraire.
Et pas dans tout,
absolument, c'est vrai. Et dans le salaire aux pièces, eh bien en fait, on se met d'accord sur le coût d'une pièce. Je vais fabriquer un boulon, voilà, le boulon coûte du temps. L'approche de Marx consiste à dire que dans les deux cas, les deux formes de rémunération, alors le terme qu'il utilise c'est irrationnel, moi je dirais c'est inégal, profondément inégal aux dépens du travailleur, dans la mesure où elles procèdent toutes deux, ces deux formes de rémunération, d'une sorte d'un tour de passe-passe qui consiste à faire disparaître la valeur réelle de la force de travail, ce que Marx appelle le travail vivant, pour n'en payer qu'une partie. En gros, le salaire est une convention dans laquelle la valeur du travail est transformée en paye. Et il se trouve, et Marx l'a très bien décrypté, que systématiquement, cette convention se fait au détriment du travailleur qui est perdant, puisque le principe même du capitalisme consiste à exploiter l'excédent de travail qui est invisibilisé dans la négociation, ce que Marx appelle le surtravail, en ne la payant pas. En gros, dans le capitalisme, on va payer l'ouvrier pour travailler de 8 heures à midi, mais de midi à 5 heures de l'après-midi, c'est du travail gratuit. Et c'est là-dessus qu'on fabrique du profit. Donc, évidemment, je ne rentre pas dans le détail de la manière dont tout cela est invisibilisé, mais on comprend à travers ce processus que plus on masque le travail réel aux yeux du travailleur lui-même, et plus on a de chances de dégager de la survaleur sur ce travail invisibilisé. J'insiste là-dessus maintenant parce qu'il se trouve que dans notre économie du XXIe siècle, il y a de plus en plus une sorte de porosité entre la notion de loisir et la notion de travail. Vous parliez du télétravail dans votre introduction. Je pense que le télétravail va complètement dans le sens de cette indifférenciation entre ce qui est de l'ordre du loisir, du travail, de la sphère privée, de la sphère professionnelle. Et plus on a cette indifférenciation, plus il est certain que l'employeur, le capital, pourra tirer le maximum de survaleur de ce travail invisibilisé.
Après, il y a des cadres qui sont donnés quand même par le code du travail, etc. Mais ce que vous peut-être vous en sous-entendez, c'est que le rapport de force dû au justement au lien de subordination fait que c'est même s'il y a un cadre, on est quand même poussé à le dépasser.
Exactement, et bien sûr qu'il y a un cadre donné avec, mais que rappelons quand même que ce cadre, il est issu à chaque fois de luttes sociales extrêmement difficiles, terribles, que tous les gains qui ont été obtenus par les travailleurs sur le temps de travail, le temps de la journée, le salaire minimum, etc., ont été obtenus à la force de la grève et du poignet, si j'ose dire, enfin, et des luttes, quoi. C'est absolument pas les capitalistes qui l'ont donné en se disant bah, c'est quand même mieux de travailler dans de bonnes conditions. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que le capitalisme n'a eu de cesse, et en particulier dans les 30 dernières années, que de renforcer, c'est le propre même, je pense, enfin, en tout cas, l'une des caractéristiques de ce que l'on peut appeler le néolibéralisme, que de renforcer la dimension concurrentielle du marché du travail, de mettre en concurrence les travailleurs entre eux. C'est typiquement le principe de la mondialisation pour ce qui concerne le travail industriel, les mettre en concurrence les uns avec les autres, de manière à presser sur le salaire. Et c'est en pressant sur ce salaire et en écrasant, je dirais, au maximum le travail payé et en obtenant le maximum de travail non payé qui dégage le plus de profit. Quelle est la mécanique mise à jour par Marx, en tout cas?
Oui, effectivement. Et puis c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui de manière encore un peu plus sournoise, parce que dans l'entreprise dans laquelle je suis, mais je pense que dans la plupart des entreprises où il y a pas mal de numérique ou d'informatique, il y a ce truc-là de la surenchère des salaires élevés de l'informatique, mais sans parler en fait des autres salaires. Qui eux baissent en contrepartie, quoi. Parce que du coup, si on dit que certains salaires ont le droit d'être élevés, ça veut dire que les autres n'ont pas besoin d'être élevés et n'ont pas besoin d'être ajoutés à cette évolution salariale. Mais du coup, cette vision par le salaire, elle a quand même une orientation très un peu consumériste.
Dans quel sens?
Dans le sens où effectivement, il y a une pression à la baisse des salaires pour la fabrication des produits.
Oui.
Mais d'un autre côté, il y a aussi quand même une sorte de hausse des salaires dans certains métiers qui font reluire une image en fait de la possibilité de pouvoir plus consommer. Si on gagne plus
Oui,
d'argent, et donc du coup il y a une
d'accord.
sorte de concurrence un peu interne pour dire bon
Et
ben moi je veux gagner plus d'argent, comme ça je pourrais plus consommer.
oui, tout à fait.
Consommer,
Mais
c'est
alors
pas
ça
mal aussi,
aussi,
oui.
et consommer, oui, le lien entre la consommation et la consommation est très intéressant à creuser. Mais ce que vous décrivez, effectivement, est juste et sert aussi le capitalisme. Je m'explique. Ce que vous décrivez finalement, c'est peu ou prou le principe de ce qu'a été le taylorisme. En gros, le capitalisme n'est pas un système économique figé. Il a énormément évolué depuis le 19e siècle et il a connu des ères différentes avec à chaque fois des mécanismes différents. Il n'empêche, je pense, que l'analyse marxiste, en tout cas sur ce qui concerne les grands rapports de force, et les grands mécanismes liés au travail et à la marchandise s'appliquent à chacune des périodes. Mais là, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail. Et effectivement, au moment du taylorisme, donc deuxième révolution industrielle, puis, alors, on va dire effectivement années 30, et puis même années 50, années 60, et je dirais jusqu'au début des années 70, c'est une grande, grande période en plus de croissance, etc. On entre dans l'ère de la consommation de masse. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est de dire qu'il faut payer suffisamment les travailleurs de manière à ce qu'ils puissent consommer et donc qu'on ait un cercle vertueux qui consiste à ce que les travailleurs soient de bons producteurs et puis derrière de bons consommateurs qui vont consommer et donc consommer la marchandise qui elle-même va être remplacée par une nouvelle marchandise, etc. Et on a presque une sorte de, voilà, de mécanisme pur de croissance où on a comme ça infiniment un rapport de production-consommation croissant, donc, et qui permet comme ça au système de fonctionner. Ça a effectivement très bien marché. C'est les 30 Glorieuses, c'est typiquement ça. Et effectivement, les salaires ont augmenté de façon extrêmement significative dans cette période-là. C'est là qu'on voit émerger une classe moyenne, en tout cas dans les pays avancés, les pays occidentaux extrêmement florissants, et que voilà, tout le monde a accès à cette consommation. Et je dirais que c'est le moment où on peut considérer que la consommation devient un travail à part entière. Demander aux travailleurs, puisque ils ont cette charge de faire disparaître les marchandises pour que d'autres puissent leur succéder et qu'on ait ce mouvement comme ça de production illimitée qui est le propre du productivisme.
Ouais.
Ce moment-là du capitalisme est, à mon avis, révolu. Et je parle avec l'appui de très nombreux économistes et historiens de l'économie et penseurs actuels. Hein. Cette période-là est révolue. On n'est plus dans une période de taylorisme. On est entré dans une nouvelle ère qu'on peut appeler l'ère digitale, l'économie numérique, comme vous voulez. Une nouvelle ère où le système est encore plus, sournois, dans la mesure où ce que l'on demande aux producteurs, si je reprends le mécanisme des plateformes, par exemple sur les réseaux sociaux, je vais m'attarder une seconde sur le travail qui est produit sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux fonctionnent grâce à la production de contenu de la part de ceux qui s'y trouvent, donc vous et moi.
Oui, d'ailleurs, même le terme qui décrit en général les réseaux sociaux et ou qui décrivait au début des années 2000, c'était user generated content, c'est-à-dire contenu généré par les utilisateurs. C'était assumé et pleinement. Et du coup, à l'époque, c'était quand même vendu comme une sorte d'espace de liberté d'expression avec comme flagship étendard le Wikipédia, par exemple.
Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a eu une période dans les années 90, début 2000, où l'émergence d'Internet et toutes ses modalités de fonctionnement recelait un espoir, une utopie absolument extraordinaire. Et en fait, il y avait deux possibles à l'époque, hein, si on se souvient bien. Il y avait deux mondes possibles. Il y avait un monde totalement libertaire, effectivement, où on pouvait réinventer d'une certaine manière le communisme, mais dans une version pure, en ligne, avec ce partage des connaissances, ce partage des savoirs. Pourquoi pas, il y a toute cette culture aussi d'ailleurs qui est conservée par les pirates informatiques ou bien certains ingénieurs qui fabriquent des logiciels en crowdfunding ou des choses comme ça. Il y avait tout ça. Et puis de l'autre côté, il y avait la version capitalistique portée par les qui sont devenus les GAFA. GAFAM, on dit maintenant, et qui est en fait la vision qui a triomphé. Donc, au départ, on pouvait aboutir à un commun absolument passionnant et libérateur, ou bien à un renforcement du capitalisme sous une forme, sous la forme néolibérale qu'il a prise aujourd'hui. C'est le deuxième qui a gagné. Hein. Enfin, je pense que bon. Mais pour revenir à ce lien entre la consommation et la production, ce que j'appelle dans le livre le produsage.
Alors juste avant de commencer cette partie-là, je voulais juste faire citer un livre qui est très riche. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un livre de Fabien Benoît qui s'appelle De Valais. Qui a comme sous-titre une histoire politique de la Silicon Valley et qui
je l'ai commandé parce que j'ai eu une discussion avec Fabien Benoît parce qu'il est aussi journaliste, donc
d'accord.
On a eu une discussion. Ouais.
Oui, écoutez, je vous encourage
parce que
c'est effectivement très très intéressant. C'est moins politique que ça en fait, mais enfin à mon goût, mais je suis très politique. Mais effectivement, ça part en fait d'une forme de bidouillage avec les hackers, avec un peu cette idée de pouvoir créer des nouveaux, par exemple ce fameux outil là qui avait lancé un peu tout le mouvement des makers et des hackers, avec cet appareil qui permettait de hacker le réseau téléphonique et de pouvoir, la Blue Box je crois que ça s'appelait, qui permettait de communiquer en fait gratuitement en piratant un peu le réseau téléphonique américain. Et donc là, c'est tout un ensemble effectivement un peu anarchiste qui se nourrissent un peu de l'émergence de cette nouvelle technologie qui est l'informatique pour nourrir une sorte de nouvelle vision en fait de la société. Alors après, effectivement, ce qui explique très bien Fabien Benoît, c'est que relativement rapidement, il y a des investisseurs qui sont arrivés et tout un système économique qui s'est mis en place autour de ce désir de travailler à fond et qui s'est nourri en fait de tout ce système-là.
Et oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'au départ, il y avait aussi, je pense qu'il en parle, mais dans la Silicon Valley, toute cette idéologie New Age, Baba Cool, enfin, il y avait tout cet héritage dont étaient porteurs, y compris les fondateurs des énormes, des GAFAM d'aujourd'hui. Donc l'histoire aurait pu être différente.
Mais je pense que c'est ça qui a nourri, en fait, de manière assez naïve, le mouvement que vous alliez dont vous alliez parler à l'instant et pour lequel je vous ai interrompu, c'est-à-dire le produisage.
Oui, sur le produisage. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui l'a noué. En tout cas, oui, il est très possible qu'au départ, les fondateurs des principaux réseaux sociaux, peut-être même Zuckerberg lui-même, j'en sais rien, mais aient eu à l'esprit une vision extrêmement généreuse, sympathique, communautaire.
Alors, Mark Zuckerberg, non, pas du tout.
Ah bon,
alors, pour moi, j'ai aucun doute là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu le film Social Network, qui au moins retrace dans les grandes lignes son histoire, mais son projet au départ pour Facebook, c'était de comparer les jolies filles du campus de Harvard. Et donc, il y avait deux images qui apparaissaient, et laquelle était la plus jolie, et c'était son truc au départ.
Bah,
quoi.
Il aurait dû faire Tinder.
à l'époque, il a pensé à Facebook, et je pense que ça a eu plus de succès entre-temps. Mais c'était ça en fait son truc. Oui. Mais je pense que il a profité par contre de la facilité avec laquelle les outils sont conçus pour pouvoir se saisir et pour pouvoir en fait concevoir soi-même. C'est un peu comme si on avait un atelier de bricolage à disposition en permanence.
Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, si on revient sur ce que le mécanisme, sur quoi repose le fonctionnement d'un réseau social, et puis après, par extension, on pourra parler d'autres types d'autres modes de travail digital, parce que c'est les mêmes mécanismes qui président à tout ce qui concerne les services des intermédiaires, type Uber et tout ça, mais aussi tout ce qui concerne le mode de fonctionnement de YouTube. Enfin, par extension, ce sont les mêmes mécanismes. C'est quoi ? C'est en gros, rien de ce qui est produit n'est proposé par la plateforme elle-même. C'est ce que vous disiez, user generated content. Donc, ce sont les utilisateurs qui fabriquent eux-mêmes le contenu. Donc, en fait, ce qui est demandé, c'est ni plus ni moins que du travail gratuit qui consiste à fabriquer un contenu, qu'il soit écrit, vidéo, etc., photo, à le poster et à en consommer d'autres. Que d'autres utilisateurs ont eux-mêmes fabriqué. Il faut que ça marche dans les deux sens. Il faut à la fois produire et consommer. Et au moment où on fait l'expérience de cette production de contenu, on n'a absolument pas l'impression d'être un travailleur. On est en mode loisir. Puisque les réseaux, ce dont on parle là, c'est vraiment des réseaux qu'on consulte. Et même d'ailleurs, au début, il était interdit, je me souviens en entreprise, il était interdit d'aller sur Facebook sur ses heures de travail, ce qui voulait bien dire que c'était considéré par tous comme plutôt quelque chose qui était de l'ordre du loisir. Alors qu'il y a une production de valeur, évidemment, à chaque fois, puisque sans ces réseaux, la plateforme n'aurait aucun intérêt. Par extension, donc c'est du travail gratuit, absolument non payé, et si on revient à ce qu'on disait de Marx tout à l'heure, on voit très bien que là, le profit, fabriquer, même si c'est epsilon, même si c'est un travail tout à fait sympathique et qui n'est pas éprouvant comme pouvait l'être celui du mineur du 19e siècle, c'est un travail qui est volé, puisqu'il n'est pas payé. De la même manière, sur les, tout ce qui concerne les services des intermédiaires, donc livraison, Deliveroo, chauffeur Uber, etc., non seulement il y a un travail alors réel qui lui est payé à la tâche, enfin réel, visible, qui est payé à la tâche, qui consiste par exemple effectivement à pédaler sur son vélo et à porter un repas, mais on demande également au livreur eh bien, de renseigner un certain nombre de données sur sa trajectoire. On demande aux clients de noter le livreur. Donc, en fait, la plateforme va collecter un certain nombre de données qui environnent le travail, enfin, le service à proprement parler. Uh-huh. Et ces données sont fabriquées, là encore, gratuitement par le prestataire de service ou par le consommateur. Uh-huh. Et ces données ont une valeur qu'après la plateforme peut revendre éventuellement ou bien qui lui permet d'améliorer son service, mais ça recèle une valeur indéniable qui, elle, n'est pas payée. Donc voilà, ce que j'appelle le pro d'usage, c'est à la fois tout ce qui a émergé dans les années 50 sur la consommation en tant que telle, le fait que nous soyons tous de bons consommateurs qui consommons des marchandises, des biens culturels, du tourisme, des médias, etc. Mais aussi maintenant, avec ce produsage, tout ce que nous fabriquons, ce que nous produisons sur les plateformes numériques.
Et c'est terrible, notamment sur justement ce rapport de la subordination. C'est-à-dire que on invisibilise en fait toute cette partie-là, parce qu'on croit que à partir du moment où ce prestataire de service n'a plus de chef direct et qu'il est son propre chef, on croit ôter ce rapport de force avec le patronat, mais en vérité c'est l'utilisateur, c'est le consommateur en fait qui crée ce rapport de force.
Bah, c'est le grand enfumage des plateformes numériques, dont le modèle économique, à mon avis, est fondé ni plus ni moins sur le dumping social. Ouais. En gros, le mécanisme est le suivant. La plateforme appâte le travailleur en lui disant « voilà, je te propose un travail indépendant. D'ailleurs, je ne suis pas ton employeur, je suis juste un prestataire qui te met en relation avec ton client ». Donc, comme si le travailleur était un travailleur indépendant. En contrepartie, donc, tu es auto-entrepreneur, tu es ton propre patron, à toi la liberté, etc. Mais on a vu, et heureusement, il y a une jurisprudence qui commence à exister sur le sujet depuis quelques mois, notamment en France. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais cet arrêt Uber, oui.
J'ai suivi un peu. J'ai des amis qui ont créé une coopérative qui s'appelle CoopCycle, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, dont l'idée est de créer en fait une sorte de plateforme numérique, mais réservée à des coopératives de livreurs à vélo et qui doivent s'organiser et décider eux-mêmes de leur salaire. Et donc, de s'organiser pour justement décider de leur propre salariat plutôt que de laisser au marché, mais plutôt en accord avec des restaurants éthiques, etc., de créer eux-mêmes le niveau de salaire auquel ils veulent.
De rémunération plutôt que de salaire, non? Parce que
de rémunération, peut-être.
Pas salarié, ouais,
en ça. Fait, si, parce si, si, c'est... certaines. Enfin, ce qui se passe, c'est qu'ils créent des coopératives. Il y a des villes, c'est en Espagne, en Belgique, en France, où il y a des livreurs qui s'organisent entre eux, qui créent des coopératives. Et cette coopérative va utiliser cette plateforme éthique qui n'a le droit d'être utilisée que par des coopératives. Et ils ont mis ça dans leur licence. Et du coup, chacune des coopératives décide de la marge qu'ils prennent. D'accord. Sur les commandes, etc. Et donc, c'est chaque groupe de livreurs qui décide.
Ah oui, c'est super intéressant. Je vais aller regarder ça. Ben, ça fait partie, voilà, heureusement, de toutes ces formes alternatives qui quand même existent dans l'économie qui est la nôtre aujourd'hui et qui portent encore l'espoir d'un autre travail. Et donc c'est génial.
C'est de retourner l'outil contre contre son patron. Mais je voulais revenir un peu sur cet aspect-là des fameuses étoiles de notation des prestataires de services. C'est vraiment typiquement là que se cache le travail un peu, enfin la valeur cachée en fait pour le patronat, parce que là en fait on est en train d'exercer une pression au bon comportement du travailleur sans que forcément ce bon comportement soit rémunéré pour autant. C'est-à-dire que c'est rémunéré en monnaie de singe en fait.
Absolument, et y a même quelque chose d'extrêmement vicieux dans cette histoire d'étoile, parce que non seulement effectivement ça donne des indicateurs de performance, de qualité, etc., qui normalement, enfin qui autrefois dans l'économie étaient l'objet d'un travail à part entière, hein, un chargé d'études, voilà. Non seulement ça, mais en plus, il y a avec ces étoiles presque l'idée d'une rétribution symbolique qui satisfait le travailleur ou même le client, qui satisfont le travailleur et le client. C'est-à-dire quand on reçoit une étoile, vous savez, c'est un peu comme dans un jeu vidéo. C'est peut-être même neurologique, enfin, je pense qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais
Il
y a comme une satisfaction à avoir son étoile qui, d'une certaine manière, je ne dis pas, se substitue à la volonté d'avoir une rémunération, mais en tout cas peut contrebalancer une faible rémunération. On est content, quoi. On a décroché ces quatre étoiles et du coup, créer une sorte de d'état d'esprit, de disposition pour continuer de se faire exploiter, pour utiliser un mot cru.
Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Et alors, je voulais faire une petite parenthèse. On a déjà un peu commencé à en parler d'une certaine manière, mais vous citez beaucoup le travail. Enfin, vous citez beaucoup d'auteurs dans votre livre. Et Antonio Cassini. Non. Alors, moi, au contraire, ça appuie tout ça dans des choses très dans le temps déjà, ça appuie ça dans la littérature, dans les recherches faites actuellement, dans la philosophie. Donc non, ça s'inscrit dans tout un paysage littéraire et intellectuel. Et c'est très important que justement ce soit fait. Enfin, c'est mon humble opinion, mais voilà. Je voulais revenir par contre sur un auteur qui est peut-être un peu plus récent que certains autres dans vos citations, qui est Antonio Cassini, mais et pour cause, hein, son travail est récent puisqu'il est essentiellement orienté sur le numérique. Je voulais savoir si vous voulez revenir un peu sur justement En attendant les robots, hein, j'imagine que c'est beaucoup ce livre-là qui vous a inspiré. J'ai prévu de l'interviewer pour ce bouquin-là et j'ai juste pas eu le temps. Mais c'est quelqu'un que je connais depuis un certain nombre d'années et donc c'est avec plaisir que j'ai revu que j'ai vu son travail dans votre ouvrage.
Oui, et c'est quelqu'un de très très important sur la question du travail digital aujourd'hui, qui a suivi son livre. Je vais revenir sur le bouquin En attendant les robots, mais qu'il a fait suivre de documentaires absolument extraordinaires qui sont passés sur France 2, il me semble, récemment. Mmh. C'était avant le confinement.
Ils sont toujours disponibles sur YouTube en plus. Donc, et en plus, voilà.
C'est
les travailleurs
20 minutes à chaque fois.
Oui, je vous laisse le dire, pardon.
Oui, pardon, non. Effectivement, sur les travailleurs du CLIC, quatre petits documentaires de 20 minutes. Certains de vos auditeurs n'aiment pas lire, vraiment, c'est une manière extraordinaire pour rentrer dans cette question du travail digital. Moi, si j'avais pas lu En attendant les robots, je suis pas sûre que j'aurais réussi à écrire Les dépossédés de l'open space, et notamment vraiment la première partie, parce qu'il a mis des concepts et une structure sur des éléments que je présentais, mais qu'il a vraiment théorisé d'une façon remarquable. Alors, en gros, sa thèse principale, pourquoi ça s'appelle En attendant les robots, déjà ça c'est intéressant, c'est parce que, en gros, il dit que derrière le discours hégémonique selon lequel, et qui d'ailleurs ne date pas d'hier, ça c'est intéressant, il remonte un petit peu sur l'histoire, le discours selon lequel les machines allaient finir par remplacer les humains au travail était un discours totalement fallacieux, et que malgré les progrès de la robotisation, de l'automatisation, évidemment de l'intelligence artificielle qui sont exponentielles, malgré ces progrès-là, eh bien, on a toujours une mécanique qui consiste à ce que l'homme serve la machine. En gros, il reprend, il fait une analogie avec avec le mechanical Turker, d'ailleurs, terme que reprend Amazon pour son micro-travail. Donc c'est quoi ce principe? C'est à la fin du 19e siècle, quelqu'un qui avait inventé une machine à jouer aux échecs. En gros, c'est un petit automate qui bougeait tout seul, qui jouait aux échecs. Tout le monde était épaté et tout. Et en fait, il avait caché un nain sous l'automate qui jouait évidemment pour l'automate. Et cette métaphore, pour lui, c'est la métaphore du système que fabrique l'intelligence artificielle, où en fait, on a effectivement des robots qui sont de plus en plus intelligents, qui sont de plus en plus actifs, qui font de plus en plus de choses, mais qui ont besoin des humains pour les nourrir, pour les entraîner, par exemple, tout ce qu'on appelle le deep learning, nécessite que des humains expliquent à une intelligence artificielle comment on repère un chat sur une image, comment on repère un feu rouge. Enfin voilà, c'est des choses qui ne sont absolument pas automatisées et qui nécessitent le recours notamment à ce qu'on appelle le micro-travail que proposent des plateformes du type Amazon. Ça, c'est pour la thèse générale. Et après, il analyse toutes les différentes modalités du travail digital. Si vous voulez, je peux rentrer dans le détail.
Oui, bien sûr. C'est pour moi un des pivots en fait aussi un peu de votre du livre.
C'est très inspirant enfin, sur plein d'aspects. Alors les trois modalités qu'il identifie sur le travail digital, il y a tout ce qui concerne le travail digital à la demande. Donc là, c'est ce que j'évoquais avec les services des intermédiaires type Uber, Deliveroo, Airbnb, etc. Ensuite, ce qu'il appelle le micro-travail, donc qui permet à des usagers d'Internet de gagner de l'argent en aidant justement ces plateformes à optimiser leurs services. Amazon Mechanical Turk qui emploie donc des gens partout dans le monde pour trier des adresses, classer des produits dans un catalogue, éliminer des doublons. À chaque fois, on s'extasie pour ceux qui commandent sur Amazon, de voir qu'on va leur recommander, quand ils achètent un bouquin, un livre qui est proche de leur centre d'intérêt. Ça ne se fait pas tout seul, en fait. Il y a derrière des hommes et des femmes, d'ailleurs partout dans le monde, en Inde, en Afrique, aux États-Unis énormément, qui aident les machines à comprendre comment fonctionne, dans une liste d'un client, à enlever les doublons, à comprendre ce qui les intéresse, les liens, les analogies entre les titres de livres, etc. Ouais. Ce qu'il faut savoir, pour avoir un ordre d'idée, c'est qu'aux États-Unis, les micro-travailleurs sont 72%.
Ah.
Alors ça, c'est un chiffre qu'il y a dans le bouquin de Cassilly. Ça paraît énorme, parce que le micro-travail, il est très souvent pratiqué en plus du travail de base. C'est un appoint. Et d'ailleurs, le travail de plateforme, très souvent, est un deuxième travail pour les travailleurs qui y ont recours.
Oui, effectivement.
Ça, c'est un point important. Et puis, il évoque aussi le travail social en réseau, donc ce dont on a parlé, et qui est un travail gratuit. Ah oui, et puis j'ajoute une dernière forme de travail dont je n'avais pas connaissance, moi, avant de le lire, et puis surtout de voir, c'est peut-être l'un des documentaires qui m'a le plus frappé dans les quatre, dans la série des quatre qu'il a fait derrière, c'est tout ce qui concerne le nettoyage du web. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
Si. Enfin, c'est terrible.
C'est terrible. Pour moi, c'est vraiment une sorte d'esclavage moderne, et puis sans compter l'aliénation que ça représente d'un point de vue psychique. Mais donc, il s'agit pour des individus de regarder toute la journée des contenus sur les réseaux sociaux et de repérer les contenus violents, grossiers, pornographiques, pour en expurger les réseaux. Et quand on a les témoignages de ces nettoyeurs du web qui racontent qu'ils assistent à des décapitations, à des meurtres d'enfants, vraiment, c'est les 7 péchés capitaux, c'est monstrueux. Et dans le documentaire, on voit bien que c'est un travail très bien payé, donc évidemment, c'est bien appâter le chaland. C'est un travail très bien payé, c'est pour l'argent qu'ils le font, mais que ce n'est pas sans conséquence psychologique, terrible.
Alors, j'imagine que des gens qui voient ça n'en sortent pas indemnes, quoi. C'est pas possible de
absolument.
De pas
et d'ailleurs,
revoir
dans les
ces
témoignages,
images-là, quoi.
C'est ça, et parce qu'en plus, c'est toute la journée, quoi. Et à tel point, d'ailleurs, que les GAFAM qui proposent ce travail les font travailler dans des conditions extrêmement agréables, avec des salles pour se relaxer, éventuellement des psys sur place pour les prendre en charge quand ils ont vu quelque chose de trop violent. Enfin, vous voyez, ça veut bien dire qu'ils ont conscience quand même de ce qu'ils leur demandent de faire. Et je trouve incroyable que ça puisse exister. Mais sans ces nettoyeurs du web, on comprend très bien que les réseaux sociaux désintéresseraient très vite beaucoup de gens. Parce que moi, si j'avais le risque en allant sur Facebook d'assister à une décapitation, c'est évident que j'irais plus. Hein.
Oui. Mais en fait, c'est un peu. Alors, il y a effectivement ça, mais moi, ça me rappelle des moments pendant la révolution iranienne, mais de 2008, la révolution verte. Il y avait des images en fait qui fuitaient en fait de la lutte des jeunes iraniens contre l'État à l'époque, et il y avait cette image qui était relativement célèbre de cette militante qui avait été tuée par un sniper, et donc toute la scène était durait pas malheureusement enfin pas très longtemps quoi, elle durait une trentaine de secondes, et cette vidéo là a été disséminée sur Internet et a peut-être contribué, non, pas vraiment. Elle a en tout cas choqué beaucoup de gens par la violence que c'était, quoi.
Et donc c'est... Oui, et donc a failli, vous voulez dire, remettre en cause l'usage des réseaux par les consommateurs.
Du coup, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que d'une certaine manière, le monde est terrible et on n'est pas obligé de tout voir, et on devrait pouvoir choisir de voir des choses terribles que l'on voit. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi une manière de censurer la réalité du monde.
Alors, je sais pas. Absolument. Si et d'ailleurs, ça aussi, c'est un point qu'il évoque. Très souvent, ces nettoyeurs du web sont un petit peu livrés eux-mêmes pour ce qui concerne le jugement. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont une espèce de charte sous les yeux. Il y a des moments où c'est assez évident, la violence ou la pornographie. Et puis, il y a des moments où ça l'est moins. Et où, du coup, c'est sur leurs épaules à eux, individus, sujets, que repose la charge de devoir décider de ce qui est visible ou de ce qui ne l'est pas, moral ou ce qui ne l'est pas. Sachant que, là, on évoque les cas les plus terribles, mais que, et ça aussi, c'est très bien dit dans le documentaire, la plupart du temps, et ce qui est très usant pour ces nettoyeurs du web, c'est qu'ils sont juste confrontés à une espèce de bêtise, de violence verbale, comme ça, quotidienne. Et que, par exemple, ils vont devoir décider si dans un tweet où quelqu'un va traiter un autre, mettons, de sale arabe, par exemple, est-ce que ça, je le supprime parce que c'est un contenu qui contient une forme de racisme. Donc, ils vont devoir décider de choses comme ça qui évidemment, les dépassent et qui devraient être sous la responsabilité de leur employeur et non pas la leur, quoi.
Effectivement, c'est ce genre de choses. Et si on avait normalement suivi la logique initiale un peu de cet internet, c'était que c'était un peu ça la logique derrière le user generated content. C'était en gros par la participation, les gens régulent ce qui doit être exprimé, et en fait est arrivé à un moment au tout début de Twitter par exemple. Quand une personne disait quelque chose de mal, de déplacé, il y avait plusieurs personnes qui le signalaient, et du coup il y avait alors il y avait une sorte de régulation de groupe, quoi. C'est le système cognitif un peu classique du groupe, mais en retirant, je me demande si en retirant en fait cette possibilité là, parce que justement l'envie de vouloir croître et de vouloir devenir une sorte d'industrie de masse de l'information. Oui. Ils ont embauché tous ces gens-là pour faire ce filtrage par eux-mêmes, et du coup, en concentrant, en fait, c'est presque un calcul, j'ai envie de dire, d'ingénieur, parce que les ingénieurs travaillent beaucoup sur les petits pourcentages d'erreurs, etc., pour réduire les pourcentages d'erreurs, mais ils savent que ces pourcentages d'erreurs-là existent. Mais le problème, c'est que ce pourcentage d'erreurs, ça retombe sur la psyché de travailleuses et de travailleurs, et ça les détruit de manière assez irrémédiable, quoi.
Oui, et du coup, effectivement, la conséquence de cette surresponsabilisation du nettoyeur du web et au contraire une déresponsabilisation des utilisateurs des réseaux, ouais. Et qui va peut-être dans le sens d'une radicalisation voilà, des mots utilisés, des expressions, puisque de toute façon, d'abord, ils risquent rien en le faisant. Enfin, alors, après, il y a toutes les questions des lois là, qui ont été évoquées pour... notamment sur la question des fake news, et donc on pourrait imaginer une loi qui aussi intègre la question des propos à caractère raciste, etc. Et d'ailleurs, certains peuvent se faire attraper pour ça, mais sachant d'une certaine manière qu'ils vont se faire nettoyer, peut-être que ça renforce cette violence, parce que la violence verbale sur les réseaux sociaux, elle est grandissante. Après, il y a aussi un problème aussi plus global, parce que c'est le cas aussi sur les médias en général, et c'est peut-être lié, vous savez, à cette logique du choc. Le nom d'auteur de ce concept m'échappe à l'instant, mais c'est la personne qui a théorisé le storytelling et qui a publié un livre plus récent sur le choc, la stratégie du choc. Oui. Alors, il y a aussi Naomi Klein, mais c'est pas à elle que je fais référence. Mais qui explique qu'en gros, maintenant, après le storytelling, où on a complètement essoré tous les récits, toutes les histoires, à force de les façonner, d'ailleurs à l'aide de la communication, eh bien maintenant, ne sont plus audibles que les discours extrêmement radicaux, violents. Enfin, c'est le trumpisme qui en est l'exemple.
Ouais. C'est un livre Actu Sud, c'est ça Non, l'Actu Sud, c'est Naomi Klein, donc c'est autre chose.
Je pense pas que ce soit Actu Sud, non. Un truc avec choc, ou le clash, non, voilà, c'est le clash, un truc avec le clash. Je vais vous le retrouver, j'ai un ordinateur à côté de moi, donc on parle.
Il faut qu'on avance, parce qu'en fait, ça est très intéressant, mais on a plein d'autres sujets. Votre livre est vraiment très riche. Et donc, je rappelle, Les Dépossédés de l'Open Space, pour les auditrices et auditeurs qui arriveraient. Et donc, je reçois l'autrice Fanny Lederlin de ce livre. Et donc, nous parlons un peu du contenu de ce livre, qui est une critique, en fait, sur comment le numérique nous distancie en fait du réel, de ce que c'est que le travail. Alors justement, qu'est-ce que c'est que ce nouveau travail? Parce que vous parlez justement, même à un moment, vous parlez de néo-travail. C'est un peu ce dont on parlait, c'est le produsage dont vous parliez, ou est-ce que ça s'étend à d'autres aspects du travail?
Alors c'est plus global que ça. Ce que j'appelle le néo-travail, ce sont les nouvelles modalités de travail qui sont apparues au cours, je dirais, des 30 dernières années, sous l'effet notamment des mutations technologiques, donc robotisation, digitalisation essentiellement, mais aussi des dogmes managériaux qui sont apparus là aussi dans ces décennies-là, qui ont accompagné en fait ces mutations technologiques, et notamment de l'injonction à l'adaptation, de l'injonction à l'autonomie et de l'injonction à la performance, qui sont devenus un petit peu des impératifs catégoriques, à la fois d'ailleurs dans l'entreprise, mais aussi dans la société, et qui ont, selon moi, des conséquences terribles sur le travail. J'ai regroupé sous le terme de néo-travail, alors qui fait à la fois référence au fait que ce sont des nouvelles modalités, mais aussi, bien sûr, au fait qu'elles sont intimement liées à la forme contemporaine du capitalisme, qui est le néolibéralisme. Je regroupe dedans à la fois tout ce qui concerne le travail digital dont nous venons de parler, mais aussi ce que j'appelle dans le livre le travail du soin, et dans lequel, donc c'est pas une catégorie sociologique du tout, mais c'est une catégorie en fait qui m'aide à penser, travail du soin, dans lequel je regroupe en fait tout ce qui concerne le soin de la vie, donc personnel soignant, bien sûr, agent d'entretien, éboueur, mais aussi instituteurs, institutrices qui prennent soin des enfants, nourrices, personnel d'EHPAD, vous voyez, tous les gens, tous les travailleurs qui ont en charge le fonctionnement de la vie. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que ce travail du soin n'était pas du tout identifié avant la crise sanitaire qu'on a vécue. Ils étaient même sous le radar, À tel point d'ailleurs que les personnels soignants étaient obligés de se battre, de faire la grève pour essayer d'obtenir une amélioration de leurs conditions de travail, qui n'était absolument pas entendue avant la crise. Que les agents d'entretien, les personnes qui viennent nettoyer les bureaux tôt le matin, tard le soir, alors eux étaient complètement sous le radar, c'est-à-dire qu'on n'en parlait pas. Les instits, il y avait une espèce de mépris comme ça, oui, c'est les fonctionnaires, enfin bon, enfin, rappelez-vous quoi. Et vrai que pendant la crise, tout d'un coup, il y a eu la lumière qui a été projetée sur ces travailleurs et on s'est dit « Ah mais en fait, c'est vital ce qu'ils font ouais. ». Et donc, effectivement, c'est une catégorie de travail qui est vitale et qui est pourtant sous-payée, structurellement sous-payée, mal reconnue et parfois, d'ailleurs, une partie des travailleurs de cette catégorie n'ont pas de droits. Notamment, d'ailleurs, beaucoup d'agents, qui sont souvent des femmes, des agentes d'entretien, d'ailleurs souvent racisées, et qui parfois sont totalement exploitées, cette forme d'esclavage moderne, hein, par des entreprises sous-traitantes qui les emploient. Parce que, alors je fais une petite digression, hein, c'est juste une forme du néo-travail, je reviendrai après à la partie plus globale, mais ces travailleurs du soin, très souvent, ne sont pas, enfin comment dire, il y a une sorte de dualisation du marché du travail où il y a le travail à forte valeur ajoutée, donc qui produit des profits, voilà, et puis toutes ces activités dont ont besoin les entreprises, hein, d'ailleurs, voilà, gestion de flotte de véhicules, nettoyage des bureaux, pourquoi pas conciergerie, services généraux, etc., qu'elles rejettent progressivement à leur périphérie en utilisant des sous-traitants, qu'elles mettent en concurrence d'ailleurs les uns avec les autres et qui emploient pour elles du personnel qui en fait rentre dans leurs locaux mais n'a pas la fonction ni le titre de salarié officiel. Ouais. Bon, bref, je referme la parenthèse sur cette modalité de travail qui est à mon avis extrêmement intéressante à creuser et voilà, à comprendre aujourd'hui pour comprendre ce que c'est que le néo-travail, mais pour vous dire que ce néo-travail, c'est toutes les formes dégradées du travail qui caractérisent aujourd'hui, selon moi, le travail au XXIe siècle.
Effectivement. Ça me donne l'occasion en fait, de faire un coucou à la grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis de Clichy-Batignolles, qui ont été en grève. Depuis très longtemps.
Ça remonte au mois de janvier. Hein.
Oui, c'est énorme. Et donc, voilà, elles ne lâchent pas l'affaire et elles ont raison. Et je pense qu'un jour, ça sera entendu. Peut-être que ça arrivera à changer les choses de manière un peu définitive.
Oui, et d'ailleurs, s'ajoute à cette grève-là une grève des agents de nettoyage de certains EHPAD qui... n'ont pas obtenu de prime Covid ouais. Au prétexte justement qu'elles étaient employées par des entreprises sous-traitantes ouais. et qui donc maintenant sont obligées d'entrer en lutte pour obtenir les mêmes droits tout simplement que leurs collègues qui n'étaient pas employés par des entreprises sous-traitantes.
C'est un peu la double peine quand même.
Complètement.
Donc du coup, c'est là où je voulais un peu aussi en venir, c'est que c'est normalement ce lien de subordination avec ces travailleuses et ces travailleurs devrait impliquer une sorte d'échange de travail, c'est-à-dire une sorte d'échange quoi. C'est ce que vous écrivez. Hein, c'est normalement il y a en échange du travail, normalement il doit y avoir de la protection physique et morale. Et donc clairement, il y a une énorme défaillance de ce côté-là, autant dans tous les pans que recouvre ce néo-travail.
Oui, alors je ne suis pas une juriste, hein, je ne suis pas une experte du droit, mais ce que j'ai compris du lien de subordination, c'est que, qui caractérise en fait le salariat aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas, c'est bien compris aussi dans le droit du travail, il n'est pas clairement défini, mais en tout cas, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de le caractériser. Et en tout cas, le principe que recèle le lien de subordination, c'est l'idée que l'échange, enfin que le contrat entre l'employeur et l'employé, enfin l'employeur et son salarié, n'est pas un échange égalitaire. Par nature, il y a un rapport de force qui est en faveur de l'employeur. Ça, je trouve que c'est très important de le rappeler. c'est le point de départ de la question du salariat. Étant donné que c'est un rapport inégal, il va falloir protéger le travailleur pour justement rééquilibrer la relation. Et donc, le lien de subordination, il dit quoi ? Il dit effectivement, l'employeur me donne des directives, me donne un cadre de travail, des missions particulières, me surveille aussi, il y a l'idée d'une surveillance. Mmh. En contrepartie de quoi ? Je dois être protégée physiquement, payer un salaire minimum, j'ai une protection sociale, etc. Et donc, il faut faire très attention parce que, alors que j'adore Danielle Linard, cette sociologue du travail, que je m'appuie beaucoup sur son travail dans les dépossédés d'Open Space, je l'ai vue récemment questionner la notion de subordination en disant, voilà, il faut faire péter la subordination, on est trop docile, les travailleurs sont trop dociles, il faut revenir à une idée d'indocilité, de désobéissance. Moi, je suis tout à fait d'accord avec, enfin, on y reviendra aussi sans doute, mais cette idée d'indocilité, de désobéissance qui est nécessaire pour pratiquer un travail justement qui ne soit pas dégradé, dégradant, mais qui soit responsabilisant et qui soit épanouissant pour le travailleur. Mais attention, ce n'est pas en questionnant le lien de subordination qu'on y arrivera, parce qu'au contraire, il va dans le sens d'une protection du travailleur.
Mmh. Ouais,
Et effectivement, en remettant, je vous parlais des dogmes néolibéraux dont le dogme de l'indépendance qui est devenu absolument hégémonique dans nos sociétés, à tel point qu'on l'a tous intégré. Qui ne veut pas accéder à l'indépendance ? Quand vous discutez avec un chauffeur Uber, il vous dit bah voilà, super, je suis mon propre patron, personne ne me donne d'ordre. Quand on discute avec des collègues en entreprise, très souvent, on a ce rêve comme ça dans un coin de la tête, et ah, un jour, je me mettrai à mon compte. Je vais sortir de là, je vais être mon propre patron, je veux être autonome, je veux gérer mon temps comme je veux, je veux gérer mon travail comme je veux. Il y a cette idée-là, très très libérale évidemment, mais qui est très sournoise.
Est-ce que vous pensez qu'on confond autonomie et individualisme ?
On le confond, oui. Enfin, il me semble que les deux, de toute façon, sont liés. Je pense qu'on survalorise la notion d'autonomie. Je vais peut-être vous étonner, mais je crois que la notion de dépendance, qui est aujourd'hui très dévalorisée, très considérée comme, être dépendant, c'est la tare ultime de nos sociétés contemporaines. Moi, je trouve qu'il y a dans la notion de dépendance quelque chose d'extrêmement beau, dans l'interdépendance d'ailleurs, le fait d'être liés les uns aux autres, de dépendre des autres. C'est pour moi le cœur même du fait social, en fait.
D'accord.
Donc, oui.
C'est ce qui fait collectif. C'est ce qui fait collectif, en fait.
C'est ce qui fait collectif, bien sûr. C'est ce qui fait qu'on peut tous être différents, avec des compétences différentes, des savoir-faire, des capacités aussi, des forces, etc., différentes. Et s'agencer les uns aux autres de manière à fabriquer un monde commun. Donc moi, plutôt que de vouloir réinjecter une sorte de pureté dans la notion d'autonomie en lui enlevant l'individualisme qu'elle prendrait, moi j'aimerais bien redorer le blason de la notion de dépendance, qui est une notion existentielle formidable.
D'accord, oui, mais c'est une sorte, ce que je comprends aussi, c'est que c'est une sorte de novlangue de penser que l'individualisme, c'est un truc d'autonomie, d'indépendance, qui en fait donne complètement l'inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt la peur de la dépendance, c'est la peur de collaborer, de coopérer, et c'est plutôt ça que ça dépeint.
Exactement. Et on le voit, je trouve, dans tout ce qui sort aujourd'hui sur l'appréciation du télétravail. C'est-à-dire, je suis totalement désemparée quand j'entends parce que le télétravail est plébiscité par les travailleurs. C'est un fait, hein, indéniable. Vraiment, dans la grande majorité, les gens veulent continuer à télétravailler. Et très souvent, l'argument qui est donné, c'est, je suis totalement indépendant, je suis plus dérangée par personne. D'ailleurs, je suis plus performant. C'est tous les mots. Vous dites neuf langues, il y a un sujet sur la question du jargon au travail, de ce bullshit généralisé qui s'est étendu dans les entreprises. Et alors, je suis la première à l'avoir vu se fabriquer, puisque j'y ai contribué quand j'étais communicante, mais les mots sont rincés de leur sens. Et il y a ce lavage de cerveau qui consiste à avoir fait intérioriser aux travailleurs eux-mêmes l'idée qu'il fallait travailler seul, plus longtemps dans la journée, plus rapidement, qu'on était plus performant tout seul. Enfin, qu'est-ce que ça construit comme société, cette vision du monde, quoi, cette vision du travail.
Il y a, je pense qu'il y a quand même une expérience humaine qui est celle de pouvoir atteindre un objectif plus facilement. Je pense que c'est une expérience qui est entre guillemets satisfaisante et cognitivement, il y a quelque chose de l'ordre de la récompense. C'est que d'une certaine manière aussi, ça consacre le fait que cognitivement, le travail collectif n'aurait aucun bénéfice. Et c'est un peu ça, en fait, je trouve que le télétravail consacre. Ça dit, mais vous voyez, c'est quand même beaucoup mieux que d'être avec d'autres personnes, quoi. Et c'est un peu terrible. Hein. J'ai fait une enquête pour mon travail au sein des salariés pour savoir comment se passait leur télétravail au tout début, hein, fin mars. Et très clairement, la plupart me répondaient à la fois oui, c'est top parce que je ne suis pas dérangé quand je fais quelque chose, mais quand même, mes copains me manquent. Et il y avait cette ambivalence, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient envie à la fois de pouvoir communiquer avec les collègues un peu quand ils voulaient, mais en même temps, ils n'aimaient pas être dérangés quand ils étaient dans le truc. Alors, le cerveau fonctionne comme ça. Il y a les moments focus et il y a les moments diffus, quoi. Et donc cette alternance-là, plutôt que d'essayer de trouver une solution plutôt d'organisation du travail, le patronat, les managers vont renforcer ce truc-là de dire bon ben vous pouvez être focus toute la journée, c'est même pas la peine de venir travailler dans les locaux, et comme ça nous on va continuer à gagner beaucoup d'argent et vous serez rincé et mort et complètement en chaos à la fin, mais c'est pas grave, nous on aura récupéré notre truc au passage. Sauf que
alors il semble que le patronat soit plus divisé que ça quand même sur la question du télétravail. Oui. Parce que au début du déconfinement le MEDEF a même appelé les travailleurs à revenir sur site, hein. Oui. Bon, à mon avis, c'est provisoire parce qu'ils vont assez rapidement se rendre compte des gains de productivité qui vont être faits avec le télétravail, parce que je rejoins complètement votre raisonnement. Mais pour l'instant, on est sur une attitude plus divisée de la part du patronat.
Oui, c'est vrai. Terminer sur ce truc-là, ce que j'ai remarqué, c'est que au début, il y a un an ou deux ans, une loi est passée justement pour favoriser le télétravail et ça avait du mal à prendre à cause de la méfiance du patronat sur le fait que les télétravailleurs ne seraient plus surveillables. Alors, ils se sont rendus compte qu'avec le numérique, c'était tout à fait possible, en fait.
Oui. Alors, moi, j'aurais une piste d'explication philosophique, qui s'appuie sur un philosophe pour expliquer cette situation et le fait qu'il n'y ait pas besoin de surveillance. Je ne sais pas si vous connaissez le philosophe Byung-Chul Han, qui a un nom comme ça asiatique, mais qui est allemand, et qui a écrit notamment un livre qui s'appelle « La société de la fatigue », dans laquelle il explique qu'on serait passé d'une ère disciplinaire, c'est un peu, vous savez, l'interprétation foucauldienne de le sujet moral qui est surveillé, qui répond à l'impératif moral du tu dois, d'accord. Donc ça c'est un petit peu ce à quoi nous sommes habitués depuis quelques centaines d'années, où c'est l'impératif kantien aussi, hein, l'impératif catégorique. Donc injonction tu dois, eh bien cette société disciplinaire aurait disparu au profit d'une société de la performance, dans laquelle l'injonction morale n'est plus « tu dois », mais « je peux, donc je dois ». Et en gros, dans cette société de la performance, c'est cette société où on est tous augmentés par nos outils électroniques, informatiques, on est tous capables de choses extraordinaires, le support des algorithmes et de l'intelligence artificielle, et au travail, on a donc des facultés extraordinaires que l'on a de cesse de vouloir développer. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez juste. Et du coup, évidemment, dans cette société du « je peux, donc je dois », le petit chef, le contremaître, c'est qui ? Ben, c'est soi-même. On n'a plus du tout besoin d'un manager pour nous dire de bosser plus, puisque de toute façon, on est dans cette logique où, ayant intériorisé qu'on était presque des surhommes, on a tout le temps envie d'en faire plus. Et d'ailleurs, la maladie du burn-out, qui est une maladie qui a été reconnue par l'OIT l'année dernière, cette maladie du burn-out, il semble qu'elle soit beaucoup moins liée à une forme de harcèlement moral qu'à ce syndrome du petit tyran intérieur qui obligerait certains travailleurs à travailler au-delà de leurs limites, même physiques et psychiques.
Alors ça me parle beaucoup à tellement de niveaux, mais ce que oui, je suis autodidacte, donc j'ai eu tendance à me former et à apprendre un peu tout ce que je sais faire aujourd'hui par moi-même. Donc du coup beaucoup d'investissement personnel qui m'a permis d'en faire ma profession, mais en même temps du coup ça je porte une forme de culpabilité de ne pas avoir un diplôme, etc. Donc du coup ça me fait travailler plus, et donc je porte ce truc là en parallèle. Ça c'est moi, mais je pense qu'il y a plein d'autres.
Combattez votre petit tyran intérieur, ne vous laissez pas faire.
mais je pense que je suis pas le seul, et les RPS, les risques psychosociaux justement sont des indicateurs assez forts de ce côté là pour mettre en valeur un peu toutes ces choses-là. Pour avancer encore un peu, vous décrivez en fait que à l'opposé de ces obligations de travail, il y a peut-être une autre manière de voir de se voir en tant qu'être humain, c'est de dire que le travail c'est tout ce qui n'est pas être artiste ou citoyen. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je résume en une phrase très courte, mais j'imagine que je voulais que vous définissiez un peu ce point de vue là que vous aviez dans votre livre.
Alors, c'est pas exactement ça, mais c'est-à-dire que dès le début du livre, je m'appuie pour essayer de définir le travail sur une distinction que fait Hannah Arendt dans Conditions de l'homme moderne entre ce qu'elle appelle toutes les formes d'action, je dirais, qui sont possibles pour l'être humain, entre le travail, l'œuvre et l'action. Alors, ce qu'elle appelle le travail, c'est tout ce qui concerne le cycle de la vie, le renouvellement du cycle de la vie. Ça pourrait se confondre à peu près avec ce que j'ai évoqué comme le travail du soin. Donc, c'est en gros cette action qui consiste sans cesse alors à semer, récolter, nettoyer, nourrir, tout ce qui... d'une certaine manière, disparaît une fois réalisé, si vous voulez. Donc, ce travail comme ça, cyclique, incessant, que les êtres humains sont contraints de reproduire jour après jour. Alors, les êtres humains sont contraints de reproduire jour après jour, sauf que au fil de l'évolution de l'humanité, est apparue une autre forme d'action, un autre rapport au monde, qui est l'œuvre. L'œuvre, c'est tout ce qui concerne la fabrication d'artefacts, donc des ponts, des habitations, des routes, mais bien évidemment des objets, des outils, le stylex taillé est une œuvre, etc. Artefacts dont nous recouvrons la nature, d'une certaine manière, pour construire un monde qui est plus durable, plus stable que nous-mêmes, et dans lequel nous pouvons justement faire autre chose que seulement travailler.
D'accord. Ok.
Et enfin, donc pour moi, le travail devrait regrouper les deux. C'est-à-dire que Hannah Arendt, je ne vais pas rentrer dans le détail de sa pensée, mais elle a tendance je vais vous expliquer après ce qu'est l'action, mais elle a tendance à mépriser un petit peu le travail au détriment de l'œuvre, œuvre qui se rapproche évidemment de l'artisanat, mais aussi de l'art, et où elle voit tout un tas de vertus. Moi, je pense qu'on retrouvera un travail épanouissant, un travail satisfaisant d'un point de vue existentiel, social, sociétal et même politique, quand on aura réuni, réconcilié travail et œuvre. Et c'est aussi lié à la crise écologique qui est devant nous, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Je vous pose juste son dernier concept, qui est la notion d'action, qui pour elle concerne tout ce qui est lié à l'action politique. Donc typiquement, dans la citoyenneté athénienne, par exemple, tout ce qui était travail était confié aux esclaves, ce qui aussi libérer du temps pour que les citoyens puissent consacrer l'essentiel de leur temps à l'action politique, sachant qu'on avait aussi les artisans qui s'occupaient de l'œuvre. Et évidemment, pour Arendt, l'action, c'est la forme la plus aboutie de la vita activa, et c'est ce qui devrait nous occuper et ce qui devrait nous intéresser davantage. Je me détache d'elle sur ce point parce que je pense que le travail, s'il rejoint la notion d'œuvre, et d'ailleurs, pourquoi pas aussi la notion d'action, puisque par le travail, on peut aussi exprimer une forme de citoyenneté, pourrait redevenir totalement émancipateur et satisfaisant.
Alors, c'est extrêmement intéressant. Mais alors, du coup, l'action politique, est-ce que c'est quelque chose que vous percevez comme quelque chose qui peut être vraiment fait à temps complet ? Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme pour le coup, mais est-ce que c'est un état permanent ?
Ça dépend dans quel type de société. Dans la société qui est la nôtre, certainement pas. Et puis d'ailleurs, c'est pas le propos là, mais l'action politique, on vit dans une oligarchie, elle nécessite d'avoir de l'argent, une rente, du temps disponible. Enfin, ouais. Ça a été très très bien analysé par des tas de politologues contemporains. Donc dans notre société, non. Dans un monde idéal, dans un monde, appelons-le un monde, une société écologique, un monde des communs, si vous voulez. Peut-être c'est un peu l'expérience que tentent de contenter les ZAD qui ont émergé ces derniers temps, ou l'exemple du zapatisme, on peut s'inspirer de ça si on veut savoir un peu à quoi ça ressemblerait. Oui, et puis c'est aussi l'idée qu'a Marx en tête, hein, quand il parle de communisme, même s'il n'en parle vraiment pas beaucoup et qu'il ne développe pas beaucoup la forme que ça pourrait prendre, mais c'est cette idée que le travail serait suffisamment partagé entre tous, pour que chacun puisse tour à tour travailler, se consacrer à l'art et se consacrer à l'action.
Bah, c'est un peu ce qu'on peut retrouver peut-être à travers la Commune, l'épisode de la Commune de Paris peut-être, avec les couturières qui reprennent le contrôle de leur usine et qui se forment en coopérative par exemple.
Exactement. Ou bien l'émergence des comités. Vous savez, dans les années 50, ou 50-60, ces comités, ou même tout l'esprit d'ailleurs ces idées qu'avaient aussi en tête les 68ards au moment des révolutions de 68. Oui, c'est cette idée-là, cette idée de réunion de travailleurs qui prennent en main leur outil de production, la finalité de la production, c'est très important de parler de ça, la finalité de leur travail en fait. Ça c'est politique, ça c'est faire de l'action que de questionner la finalité de son travail. C'est pour ça que moi j'ai pas envie de le dissocier, vous voyez.
Oui, non, mais c'est très clair. Alors du coup, c'est pour ça que c'était un des points que je voulais explorer avec vous, parce qu'il y a, à travers ça, il y a peut-être l'investissement militant. Daniel Lindhardt peut-être en parle un peu, mais c'est un travail un peu particulier qui est à la fois une action politique, mais qui est aussi qui a une forme de rentabilité, qui permet aussi, qui a des biens, non ?
Oui, alors tout dépend de ce qu'on... Alors, je vais prendre votre question de façon... Ça va peut-être paraître latéral, mais vous verrez que je vais quand même essayer d'y répondre.
D'accord.
Puisque vous avez évoqué Daniel Lindhardt, elle est l'auteur notamment d'un livre qui s'appelle « Travailler sans les autres », qui est paru en 2008, qui est vraiment un livre, à mon avis, très éclairant pour ce qui se passe aujourd'hui, notamment, où elle explique le phénomène d'individualisation des rapports au travail qui est paru il y a une vingtaine d'années. Et en gros, cette volonté managériale, consciente, de casser les collectifs au travail, de casser les liens de solidarité, les liens de coopération au profit d'une mise en concurrence des travailleurs. Alors non seulement sur le marché du travail, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, pour évidemment faire pression sur les salaires, mais aussi une fois que les travailleurs sont embauchés par une entreprise, continuer de les mettre en concurrence, vous savez, c'est tout le... principe de l'individualisation des payes, c'est-à-dire que maintenant on va négocier directement avec son manager son salaire, il y a de moins en moins de négociations collectives. C'est tout le principe de, pour les cadres, vous savez, le système des, qu'on appelle les people to watch, ou les talents qui sont identifiés comme ça dans le début de leur carrière et à qui on propose un parcours, une carrière un peu d'élite. Mmh. Enfin, tous ces systèmes-là. Le fait aussi de cette surhumanisation du management où on a des points tous les 6 mois ou tous les ans avec son manager direct, mais qui sont des points à deux personnes, les yeux dans les yeux, ou en même temps on en profite pour parler de tous les petits problèmes, y compris humains, qu'on peut rencontrer dans l'entreprise, mais qui sont très infantilisants. Mmh. Enfin, tous ces phénomènes qui vont dans le sens d'une surindividualisation du travail, mais qui existe de façon concomitante à un autre phénomène qui est au contraire la surhumanisation. Donc on individualise tous les rapports au travail et dans le même temps, on demande aux salariés de ne pas être simplement des professionnels, mais d'être des êtres humains engagés à 100%. Tu sais, quand on dit ce qui est important dans l'entreprise, c'est l'humain. D'ailleurs, les ressources, on les appelle les ressources humaines. On ne dit pas ressources professionnelles. Pourquoi on ne dit pas ressources professionnelles? C'est quand même étrange. C'est des ressources professionnelles. Non, les humains. Et on va leur demander maintenant non seulement de s'engager pour le projet de l'entreprise, mais aussi pour un projet principal qu'elle va défendre. L'entreprise, maintenant, elle a ce qu'elle appelle une raison d'être. Donc ça va être, je sais pas moi, apporter le meilleur de l'énergie pour demain. Vous voyez, pour une boîte qui fait du pétrole, par exemple. Vous aider à vivre mieux pour une entreprise qui fait des médicaments. Enfin, un délire comme ça. Ouais. Et donc, en fait, l'entreprise injecte comme ça du sens, sursature de sens ses salariés en leur demandant de ne pas avoir à le chercher eux-mêmes. Donc, ils sont sursaturés des sens et en même temps totalement éclairés les uns des autres. Et dans ces conditions, comment être militant? Comment développer un regard critique? Comment jouer des liens de solidarité avec d'autres travailleurs pour justement militer dans le sens d'une autre forme de travail ou même s'investir pour d'autres causes en dehors du travail? C'est très compliqué. C'est devenu très compliqué. Donc je ne sais pas si c'était ça que vous aviez en tête, mais moi j'ai l'impression que le militantisme aujourd'hui, étant donné ces mécanismes très insidieux des entreprises contemporaines, me paraît de plus en plus difficile à réaliser.
Vous voulez dire, donc en fait c'est un peu à travers ça, c'est tout ce qu'on appelle entreprise libérée aussi que vous visez?
Oui, y a bien sûr, mais alors vous voyez, on est encore dans la novlangue. Qu'est-ce que ça veut dire cette entreprise libérée? Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire d'être, moi, si on me disait travailleur émancipé, oui, ça veut dire quelque chose.
Oui.
Mais entreprise libérée, en vérité, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je comprends dans les faits que ça veut dire qu'on va demander aux travailleurs de faire preuve de plus d'autonomie, d'être constamment mobile, cette idée d'adaptation, on va les mettre en flex-office, on ne va plus avoir un bureau fixe. En fait, c'est du déracinement qu'il y a derrière. Hein. Mmh. Et le déracinement, alors là, on pourrait citer Simone Veil, on sait que le déracinement, elle a vraiment montré à quel point c'était, enfin en tout cas l'enracinement, donc qui est son contraire, et c'est un droit fondamental pour elle des êtres humains, et à quel point le déracinement pouvait être aliénant.
Je suis tout à fait d'accord. D'accord avec vous, évidemment. Non, mais alors, non, tout va très bien. Moi, ça fait écho, mais à tellement de choses, vous ne pouvez pas savoir. Je sors d'une NAO rémunération. Et donc, c'est le sujet de l'augmentation collective était très, très, très présent pendant plus d'un mois, là. Donc, je ne peux pas forcément en parler publiquement, mais c'est très, très vivant en moi. Alors, du coup, parlons du positif, parlons de tout ce qui peut ressortir de tout ça. C'est la dernière partie de votre livre qui fait partie. C'est des parties que j'ai pas pu lire, mais j'ai vu comme ça des mots qui ont résonné en moi. Il y a résister, désir d'obéir. Donc il y avait toujours toutes ces choses-là. Alors moi, la première question que je me pose, c'est et c'est peut-être une piste quand vous avez parlé d'émancipation tout à l'heure. C'est comment on fait une sorte de transition laborieuse, justement. C'est comment on fait la transition du travailleur pour qu'il s'émancipe.
Alors, d'abord, avant de vous présenter les pistes, effectivement, que j'explore dans le livre, je voudrais juste revenir à quelque chose qu'on aurait pu évoquer dès le début, je pense que c'est très bien aussi à ce moment-là, qui est la conviction que j'ai que le travail, vous l'avez compris, moi je ne suis pas du tout opposée au travail, je ne suis pas en train de faire l'éloge d'une société de la paresse, ce n'est pas du tout mon trip. C'est pas du tout ça que je cherche, même si j'aime beaucoup la femme, mais c'est pas ça que je cherche. Parce que je suis convaincue que le travail est ce qui façonne notre condition. Pour quatre raisons. Parce que le travail façonne notre rapport à la nature, dans la mesure où c'est par le travail qu'on va métaboliser la nature, autrement dit, transformer un tronc en table, une pomme en tarte, enfin voilà. C'est par le travail humain, que nous métabolisons la nature et donc que nous la transformons. Et donc on voit bien à quel point la façon dont on va la métaboliser est importante dans notre rapport à la nature et donc dans notre rapport à l'écologie. Soit dit en passant, je suis étonnée quand même que la pensée écologique est si peu aujourd'hui explorée la question du travail. Parce que autant la question des comportements citoyens, tout cela est évoqué, mais de savoir comment, dans notre rapport au travail, on peut agir sur une société écologique, ça, je trouve que ce n'est pas encore très, très creusé. La deuxième raison pour laquelle le travail façonne notre condition humaine, c'est parce que le travail façonne notre relation aux autres. Étant donné d'abord que c'est un lieu où on noue des liens sociaux, évidemment, mais que c'est aussi un lieu où on nous forme et même où on conforme les travailleurs à la vie sociale. J'utilise « conformer » de façon consciente, parce que faire société, eh bien, ça suppose d'avoir intégré un minimum de codes, de contraintes, de savoir-être, enfin voilà, de pas du tout savoir-être au sens managérial de bien qui tu es et tout ça. Ouais, le jargon que je rejette, mais au sens culturel, si vous voulez se tenir, s'habiller, bien se présenter, dire bonjour, c'est important. Très souvent, quand on débarque dans le monde du travail, on a quoi, 22, 24 ans, on n'a pas encore intégré tout ça, le travail y contribue, et je trouve que c'est pas rien.
C'est un espace socialisant, donc de fait, ouais. Okay. Pardon.
Exactement, et c'est l'un des lieux de notre culture, de notre civilisation même. C'est l'un des lieux où on apprend ce que c'est qu'un rapport de hiérarchie, un rapport de force. Voilà, on l'apprend. Je ne dis pas que, enfin, j'ai pas une vision conservatrice des choses. Je ne dis pas qu'on l'apprend pour ne faire qu'obéir, mais on apprend aussi à jouer avec ça. C'est très intéressant. On apprend qu'il y a toujours de l'espace où ça joue. Mais pour ça, il faut bien déjà avoir compris ce qu'était la règle générale, vous voyez.
Ah oui, très bien.
Ça, c'est pour le point sur le rapport social. La troisième raison pour laquelle le travail façonne notre condition humaine, c'est parce qu'il façonne notre rapport au monde. Donc le monde, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est tous ces artefacts dont on recouvre la nature, donc ces routes, ces ponts, ces habitats, etc. Si, au lieu de fabriquer des beaux bâtiments, des beaux ponts, des belles habitations, on se met à recouvrir le monde de déchets, on voit que c'est autre chose qu'on fabrique, vous voyez. Troisième point, le travail, c'est le lieu aussi où se façonne notre rapport à nous-mêmes. C'est là qu'on exprime nos talents, notre subjectivité, c'est là qu'on va développer des savoir-faire, c'est là qu'on va développer aussi une personnalité, en fait. Donc tout ça me paraît vraiment extrêmement important. Et du coup, c'est juste pour mettre en lumière l'importance du combat contre le néo-travail qui dégrade tous ces points-là, qui, par le productivisme, nous conduit à épuiser les ressources de la nature, qui, par les mouvements d'open space et de télétravail, qui en est la suite logique de mon point de vue, eh bien, atomise les travailleurs et donc nie tout lien social entre eux, l'individualisation du travail dont on a parlé, en nous conduisant à la surconsommation et à la production illimitée de déchets, eh bien, fabrique un monde qui ressemble à Wall-E, si vous avez vu ce dessin animé. Mais
J'avais déjà cité l'exemple que vous citez dans votre livre. Alors, c'est pour dire, hein, pour les auditrices et auditeurs, hein, il y a effectivement Wall-E qui est pas mal cité dans votre livre, mais effectivement, ce moment où... j'aime beaucoup la manière aussi dont vous parlez de Wall-E, pour le coup, parce que là, c'est vrai, cette dimension politique de Wall-E, je ne l'avais pas perçue tout de suite. J'avais tout de suite perçu qui était assez évidente, celle des...
Venant de Disney et Pixar, c'était pas
évident. Oui, effectivement, mais bon, c'est tout de suite l'image du consommateur qui passe son temps devant l'écran et qui passe son temps à consommer, c'est-à-dire regarder des trucs et manger d'autres en permanence. Et du coup, voilà. Et donc ça c'est, ce truc-là, c'est assez clair avec le monde dans lequel on est, notamment avec Netflix, qui a été survendu pendant la période de confinement. Je voulais juste souligner dans la dernière partie de ce que vous étiez en train de citer, l'aspect massification. Il y a toute une période, 19e siècle et 20e, qui consacre en fait une partie de son énergie à massifier en fait la consommation, la production, etc. Et à travers les exemples et la définition que vous nous donnez du travail, il semble que on part dans une forme de parcellisation, en tout cas de peut-être fragmentation de la consommation pour arriver à quelque chose de plus local d'une certaine manière. C'est un peu en tout cas ce que j'entrevois comme proposition.
Ah, local. Alors j'avais pas pensé à ça. Moi, ce que je perçois, c'est en tout cas une atomisation des travailleurs et donc des citoyens d'ailleurs. Atomisation qui consiste en fait à délier tous les liens entre les travailleurs, tous les liens de coopération. C'est un petit peu, d'une certaine manière, l'émergence de cette dystopie d'un monde constitué de travailleurs indépendants, si vous voulez, où chacun travaillerait dans son coin, serait performant dans son coin, consommerait dans son coin, dans sa bulle, et voilà, sans lien avec les autres. Est-ce que ça nous amènerait à plus de localité? Je le perçois moins, mais peut-être que vous allez me convaincre.
Mais parce que simplement, si on ne fabrique plus les mêmes outils de transport, par exemple, on est obligé de fabriquer ses propres outils de transport et donc de trouver localement le nécessaire pour construire ça. Et donc, on est forcément. Enfin, ça, par exemple, ou communiquer, si on n'utilise plus des outils de communication globaux, ben, peut-être qu'on va vers la construction d'outils qui sont plus à la portée de nos mains. Donc,
alors plus l'idée d'un mouvement comme ça vers quelque chose de plus frugal, d'un retour complètement en arrière par rapport aux dernières évolutions technologiques qui vont quand même vers une mise en réseau, parce que l'atomisation, pour moi, elle est liée justement à la mise en lien technologique. C'est là où il y a un paradoxe caché, si vous voulez, c'est que, et d'ailleurs on l'a bien vu avec le confinement, hein, on était chacun chez soi, enfermé dans sa bulle, et vraiment ressemblé à ces gros êtres humains ridicules qui sont dans le vaisseau spatial de Wall-E. Moi, j'y ai beaucoup pensé pendant le confinement, parce que c'est ça, quoi. Obligé obligé de consommer du loisir.
Il y a presque un côté un peu grossovov finalement, parce que c'est en train de montrer justement que le désœuvrement mène à une sorte de taille et de volume plus important, alors que bon, c'est pas toujours forcément le cas. Donc il y a une sorte de grossophobie induite finalement à travers ce truc là mais c'est un détail.
C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Après on peut y voir la métaphore de la surconsommation, mais c'est sûr que c'est un peu lourdingue. Après, Wall-E, c'est pas non plus chef d'œuvre du siècle, mais
non mais il y a plein de choses de l'époque.
C'est un film qui m'inspire beaucoup. D'abord, il se trouve que je l'ai beaucoup regardé parce que mon petit garçon, quand il avait 5-6 ans, ne voulait regarder que ça. Donc en fait, j'ai dû le voir 50 fois. C'est vrai qu'à force, j'ai commencé à essayer de l'interpréter. Ce qui m'intéresse vraiment dans Wall-E, c'est le personnage de Wall-E. C'est que c'est un travailleur du soin, il est éboueur. Il trouve que c'est un robot. Mais c'est un robot dont on voit à travers le film qu'il a une dimension humaine extraordinaire. D'abord, c'est un robot qui se déprogramme lui-même. En gros, il est programmé pour fabriquer des tas de déchets toute la journée et qu'il se met à cesser de le faire puisqu'il tombe amoureux d'un autre robot. Donc, c'est un déglingo, si vous voulez. Il s'est hacké lui-même, et en se hackant lui-même, donc en désobéissant, parce que du coup on va en venir sans doute aux pistes que je propose, donc en désobéissant à son programme, en se déprogrammant, eh bien il va être amené à rentrer dans quoi? Eh bien dans une forme d'action, pour reprendre la terminologie d'Anna Arendt, puisqu'il va se mettre à faire de la politique, il va se retrouver dans cet axiome, où il va falloir qu'il sauve sa bien-aimée. Alors ça, on est juste dans du biographique, mais derrière, il va falloir qu'il comme il ne peut pas le faire tout seul, il va s'associer tout un tas d'autres robots qui sont tous plus déglingués les uns que les autres. On pourrait, par analogie, les comparer à des malades, à des handicapés dans nos sociétés à nous, à tous ces gens qui sont rejetés sans utilité économique et sans reconnaissance sociale. Et bien, c'est avec eux qu'ils lancent une rébellion. Mmh. Et qui convainc finalement le capitaine du navire de revenir sur la planète Terre. Donc il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans l'articulation entre son travail, en plus un travail très méprisé, entre guillemets, ce n'est qu'un petit éboueur, et l'action extraordinaire qu'il fomente en s'aidant des autres pour ramener l'humanité sur Terre. Il y a quelque chose d'assez joli là-dedans. Et par ailleurs, Wally est un bricoleur. Wally a un rapport à son travail qui est un rapport de soin, en fait. Mmh. Il ne se contente pas de prendre des déchets, de les compacter et de les poser. Il observe l'environnement autour de lui. Il observe ces objets et, avant de les considérer comme des déchets, il se demande s'ils sont beaux, s'ils peuvent être utiles, s'ils peuvent être réparés. Il les ramène chez lui. Wally, c'est vraiment, pour moi, l'archétype du travailleur qui prend soin du monde en prenant soin des objets. Et comme par hasard, en prenant soin du monde, en regardant l'environnement, qu'il accède à cette faculté humaine extraordinaire qui est l'amour. Mmh. Donc il y a quelque chose, une continuité là-dedans que je trouve extrêmement belle.
Oui, non, mais c'est tout à fait vrai. Moi, il y a quelque chose, je vois quelque chose de célébration un peu de l'ouvrier, quoi, hein, parce qu'il y a même tous les trucs, parce qu'il y a son petit. Alors c'est l'ouvrier américain plutôt, parce qu'il a sa petite caisse dans laquelle il a son sandwich, etc. Oui. Donc ça apparaît un peu dans ce truc-là. Et puis moi, ayant commencé à travailler dans une usine au début de ma carrière, il y avait ça chez certains des travailleurs avec qui j'étais. C'était ces petits trucs qu'ils gardaient de leur quotidien, enfin, ou de l'exceptionnel qu'ils collectionnaient, etc. Mmh. Et qui constituaient... à la fois une sorte de divertissement, mais aussi une sorte d'attachement au travail bien fait, d'une certaine manière, quoi.
Exactement, et une réinjection, je dirais, de l'œuvre dans le travail cyclique.
Tout à fait.
Parce qu'effectivement, en bricolant un petit objet, en se le mettant dans son casier ou sur sa table, ou c'est quoi ? Parce que c'est le début de l'art, en fait. Hein. Mmh. C'est une fabrication d'œuvres, effectivement, avec cette notion de maîtrise, vous avez raison. Mmh. C'est-à-dire qu'on sort de la tâche chronisation quand on fait ça. Mmh. On n'est plus simplement un travailleur remplaçable qui effectue un processus abstrait, enfin qui suit les règles d'un processus abstrait qui lui a été donné par un manager, mais au contraire, quelqu'un qui a un projet, qui, avec des objets déjà existants, décide de fabriquer autre chose. Et c'est vraiment ce rapport-là au travail, moi, qui me paraît prometteur. Mmh. Pour théoriser un petit peu cette approche-là, je pourrais l'expliquer de la façon suivante. Il me semble que ce qui caractérise le productivisme, c'est donc la quête illimitée de production et donc de profit, voilà, sans fin. Et donc, le productivisme, il suppose l'application d'un processus qui, par nature, encore une fois, illimité et ne s'arrête jamais. C'est vraiment l'impression qu'on a quand on travaille en entreprise, même en tant que cadre d'ailleurs, et qu'on voit que tous les 31 décembre, on fait le point sur les profits de l'année, et hop, on repart au 1er janvier, et il va falloir faire 10% de plus. Vous voyez, il y a vraiment cette idée comme ça de infini quand même de rapport à la production. Eh bien, ce processus, en gros, c'est l'application de cette espèce d'impératif comme ça, assez trivial, selon lequel la fin justifie les moyens. La fin, c'est le profit, le profit le plus grand possible. Et du coup, la fin justifie les moyens, ça veut dire, pour atteindre tel profit, allez, mettons 10% de plus que l'année dernière, de quel travailleur j'ai besoin, comment je les fais travailler, comment je découpe les tâches. Vous voyez, cette logique du calcul comme ça, qui préside à notre modèle économique. Le bricolage, pour moi, c'est exactement l'inverse. Dans le bricolage, les moyens justifient la fin. C'est exactement ce que nous montre Wally. Les moyens justifient la fin. Quand il va tomber sur une boule à facettes, sur un Rubik's Cube, sur, je ne sais plus quel objet, des cuillères, etc., des trucs qui l'intéressent, une ampoule, eh bien, ça devient, comment dire, une nouvelle, un petit miracle dont il va falloir s'occuper et qui va générer un nouveau projet. Une décoration, l'embellissement de sa maison, etc. Et donc, voilà, c'est cette inversion du processus par le bricolage qui me semble être, alors ça peut paraître très théorique comme ça, mais une voie, en tout cas, spirituelle, par laquelle nous pourrions nous orienter dans un travail qui ne consisterait plus en la reproduction des tâches, mais plutôt en une espèce de tâtonnement, un tâtonnement humble, un tâtonnement que l'on ferait avec les autres, en coopération avec les autres, le refus de toute forme de programme fixé d'avance pour tenir compte des situations et de l'environnement dans lequel on est.
Oui, je vois bien. Ben alors, du coup, en fait, je pense à... quand vous parliez de bricolage, etc., je repensais à tous ces hackers du début de la Silicon Valley, de la révolution numérique, etc. Et du coup, je me suis dit, mais ils ont commencé à poser en fait des briques du monde dans lequel on est, en se disant que de toute manière, tout le monde se mettrait à faire un peu comme eux et à être des bricoleurs et être donc chacun d'une certaine manière émancipé. Et autonome par rapport à ce savoir qui leur permet justement d'utiliser ces moyens. Et donc l'apparition notamment. Et alors du coup à travers les outils, ben il y a la création d'un sujet d'une certaine manière qui le fait utiliser des moyens. Donc par exemple, on va écouter une vidéo sur YouTube de Tout le monde s'en fout pour être pour atteindre un résultat justement de quelqu'un de plus éclairé sur le monde dans lequel on vit ou je sais pas, de regarder d'autres vidéos sur les coupes menstruelles pour comprendre un peu comment ça fonctionne, etc. Enfin tout un ensemble de choses qui vont permettre qui vont nourrir justement cet objectif d'une certaine manière de résultats. Donc à travers YouTube et tout ça, il y a quand même cet aspect-là des choses mais je comprends bien que dans le process, il y a quand même l'exploitation qui est complètement masquée et qui est complètement cachée. Alors du coup, comment on fait pour parce que vous voyez la liaison, hein, c'est comment on fait pour résister à tout ça?
Ben, c'est une question vertigineuse et je pense même pas avoir trouvé, je suis sûre de ne pas avoir trouvé véritablement la réponse, en tout cas dans ce livre-là. Je vais continuer mes recherches, mais j'ai des pistes, mais qui, je vous l'avoue, ne sont pas totalement satisfaisantes, même si en fait c'est plus des pistes éthiques en fait, qui permettent au jour le jour peut-être d'avoir un rapport plus heureux et plus juste à son travail. D'abord, penser. Moi, c'est très personnel. Hein. Ça a été le point de départ pour moi de tout mon parcours. Je vous racontais au début que j'avais quitté le monde de l'entreprise après 15 ans. J'avais plutôt un bon poste. Ça se passait bien. Enfin, vraiment, j'avais pas de problème particulier. Mais m'étant mise à penser... c'était devenu pour moi impossible de continuer à tordre le langage comme je le faisais en tant que communicante, à participer à cette économie productiviste dont je voyais très bien qu'elle nous menait collectivement dans l'impasse, l'impasse écologique, sociale, sociétale. Donc déjà, et je pense que d'une certaine manière, le confinement a provoqué ça. Comme il y a eu une sorte d'arrêt... forcé du travail, chacun s'est mis à réfléchir à ses conditions de travail. Et la discussion qu'on a là tous les deux, et puis des tas d'articles qui paraissent aujourd'hui dans la presse, montrent que c'est quelque chose qui continue. Donc je me dis, c'est déjà le début. Si chacun en allait en boulot se dit, pourquoi je travaille? Est-ce que je le fais dans les conditions que j'ai envie? Comment j'utilise le langage au travail? Comment je me comporte avec... mes collègues, est-ce que je peux essayer d'aller chercher aujourd'hui quelque chose de plus épanouissant, plus solidaire, est-ce que je peux contester l'ordre qu'on m'a donné? Parce que derrière la pensée, ensuite, peut venir le désir de désobéir. Moi, je crois beaucoup à la notion de désobéissance, qui a été théorisée notamment par Hannah Arendt, qui est là actuellement, il y a une philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Sandra Laugier qui travaille beaucoup sur ça.
Je ne désespère pas qu'elle réponde à un de mes mails et que je puisse l'inviter.
Oui. Ah, mais ça ne m'étonnerait pas parce que c'est une star, mais elle est accessible et ça ne m'étonnerait pas que vous finissiez par obtenir une réponse.
Bon. Bah, ok. Parce qu'elle a écrit ce bouquin qui s'appelle L'antidémocratie, avec plusieurs personnes et c'est un des sujets.
Ouais. Elle écrit beaucoup avec lui.
Effectivement.
Ouais. Et effectivement, alors la désobéissance, au départ, quand Arendt la théorise, c'est en partant de la banalité du mal, des camps de concentration et du constat selon lequel, finalement, ce sont des hommes, surtout des hommes, mais des hommes et des femmes, comme tout le monde, pas spécialement mauvais, pas spécialement animés par le mal, qui avaient contribué au mal absolu au XXe siècle. Et donc, qui avaient contribué tout simplement en obéissant aux ordres. Mmh. C'est vraiment ce qu'elle analyse dans Eichmann à Jérusalem. Et donc, elle théorise l'idée selon laquelle finalement la désobéissance est peut-être un devoir aussi important que celui de l'obéissance. Mmh. La question étant maintenant celle du jugement qui fait que en tant que travailleur, en tant que citoyen, on peut décider du moment où il faut obéir ou au contraire du moment où il faut désobéir, ce qui est évidemment loin d'être facile et qui ne peut pas répondre à des règles préalables. Je veux dire, c'est en fonction des situations et chacun qui doit le juger, quoi. Mais la désobéissance, donc, est véritablement, je trouve, dans le travail, une faculté dont chacun devrait pouvoir s'armer. Ça suppose, parce que sinon on parle dans le vide et c'est des grandes idées et qui n'ont pas de sens, mais ça suppose évidemment une protection sociale minimum. Parce que quand on voit des femmes de ménage exploitées par des sociétés sous-traitantes à qui on demande de travailler à des horaires indus pour des payes insuffisantes, c'est très difficile d'aller leur dire vas-y, désobéis, va réclamer ton dû. Si elles ne sont pas protégées très sérieusement par le droit du travail, c'est très compliqué. C'est pour ça que je considère que l'enjeu du droit, d'abord en général, c'est de permettre aux travailleurs, et plus largement aux hommes et aux femmes, de prendre des risques existentiels. Le risque de désobéir, le risque de dire non, le risque de critiquer, le risque de faire des erreurs même, de contester un ordre et de se planter, enfin voilà. Pour ça, il faut un cadre social suffisamment solide pour permettre à chacun, en prenant un risque existentiel, d'exercer sa responsabilité d'homme et de femme.
Ouais, mais alors, du coup, normalement, c'est les syndicats qui sont censés faire ça.
Oui, mais alors on sait très bien, c'est toujours le néolibéralisme et les évolutions du travail des 30 dernières années, que tout le jeu du management et du capitalisme au cours des dernières années a été de saper le pouvoir des syndicats, et avec beaucoup d'efficacité. D'abord aux États-Unis, parce qu'il faut se rappeler que les syndicats étaient extrêmement puissants dans les années 70 aux États-Unis, qui ne sont plus du tout, voire qui ont quasiment disparu de l'horizon.
C'est un peu en train de se réinventer dans les hangars de Amazon. Parce que justement, il y a une action. Parce qu'il y a une action, justement, je crois, de la direction de Amazon pour lutter contre les syndicats. Je ne sais pas si vous avez vu passer un peu ces choses-là. J'avais fait une émission là-dessus. C'est tellement ciblé que du coup, ça crée l'objet d'une certaine manière, quoi. Parce que s'ils ont aussi peur d'un groupe, c'est qu'il a une raison d'être. Et je me disais aussi, c'est un des derniers points que je voulais aborder avec vous, c'est est-ce que vous pensez encore que le droit aujourd'hui est un cadre social protecteur, hein? Parce que là, pour le coup, pour être délégué syndical, je me retrouve confronté à des lois qui ont été pondues par El Khomri et par Macron. Et le cadre de négociation est terrible. Et vous avez, pour avoir fait partie de Nuit Debout, la lutte contre la mise en place de cette loi était impossible, puisque c'est passé au 49-3, enfin, c'était installé de force. Et là-dessus, il y a une forme de désespoir quand même.
Oui, cette question du droit, elle est complexe, en fait, parce que le droit, il est toujours insatisfaisant. C'est-à-dire qu'il y a toujours... En gros, le droit, c'est faute d'autre chose, si vous voulez. C'est un petit peu comme le rapport qu'avait Arendt à la question des droits de l'homme. Vous savez qu'elle a beaucoup questionné cette question des droits de l'homme en disant, ben, bon, maintenant qu'on a vu qu'on pouvait être qualifié de sous-homme, donc depuis la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, on pouvait être qualifié de sous-homme, perdre toute nationalité et du coup perdre tout droit possible, en quoi la notion de droit de l'homme a-t-elle encore un sens si ce n'est voilà, celui d'une théorie universelle qui ne recouvre aucune réalité. Donc elle a questionné cette question des droits de l'homme et elle a fini quand même par arriver à l'idée qu'il fallait rester sur un principe qui est que tout homme a le droit d'avoir des droits, si vous voulez. C'est un peu une sorte de principe minimum. Après, sur la question du droit du travail...
Là-dessus, il y a des lignes où vous citez un peu le paradoxe de la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec l'immigration, par exemple.
Oui, non, mais si on regarde tous les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je vous invite à le faire, en plus, c'est pas très long, on les lit les uns après les autres et c'est très troublant de voir à quel point aucun n'est vérifié, quoi.
Ouais.
Aucun. On peut faire pareil avec la Déclaration universelle de 1789. Hein, c'est aucun. Et néanmoins, il faut que ça existe. Et de la même manière, le droit, oui, souvent est au service des puissants et ça a été analysé par des tas de penseurs, évidemment. Mais je rejoindrai un peu Alain Supiot, qui est un grand juriste et un grand juriste dans le droit du travail et qui quand même se rattache au droit en disant, en fait, tout dépend de l'orientation qu'on lui donne au droit. Et il faut revenir, lui il appelle ça l'esprit de Philadelphie. Pourquoi ? Parce que l'Organisation internationale du travail s'était réunie en 1944 à Philadelphie pour poser justement les fondements d'une protection du travail, d'une protection sociale pour l'ensemble des travailleurs, en tirant les leçons des échecs du passé. Et, en 1944, voilà, on avait encore l'espoir d'ériger une société nouvelle, une société beaucoup plus émancipée, enfin voilà. Et donc, il faut revenir à cet esprit de Philadelphie, mais pour ça, il faut qu'il y ait une volonté politique. Alors moi, j'ai l'impression que chez les juristes, quand même, il y a des choses qui bougent, parce qu'on en parlait au début de l'entretien, mais l'arrêt Hubert qui a requalifié en salariat le contrat qui nouait Hubert avec un employé. Il y a eu aussi, pendant le confinement en France, le tribunal de Nanterre qui a interdit à Amazon de faire travailler ses travailleurs dans de mauvaises conditions par rapport à la crise du Covid. Enfin, il y a des choses comme ça qui bougent au niveau européen aussi. Bon, mais il faudrait réussir à revenir à un dialogue social, à renoncer à la logique du calcul aussi et algorithmique, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler là, mais le droit est de plus en plus vidé de son sens langagier. C'est pour ça qu'Alain Supiot parle de gouvernance par les nombres, qui le dénonce. Donc, c'est un combat et je pense que, oui, c'est en cela qu'il faut être militant quand on pense aujourd'hui. C'est qu'il y a tellement d'urgence, tellement de sujets que... Il faut essayer, sur tous les fronts, juridiques, politiques, économiques, philosophiques, essayer de faire avancer toutes ces idées, quoi.
C'est très riche, c'est un beau programme, c'est plein de, c'est à la fois plein de fraîcheur et en même temps c'est une lutte très ancienne. Mais ce qui est très rassurant, c'est que en fait, on est en train de recoller un peu toutes les briques anciennes des géants sur lesquels des géants militants et revendicateurs sur lesquels on s'appuie. Et donc je pense que jour après jour tout ça se construit avec des collègues, avec des camarades, par la lutte syndicale notamment, hein. Je vous remercie énormément.
C'est moi qui vous remercie.
C'était une longue conversation, c'était pas forcément facile, donc je vous remercie encore de m'avoir consacré ce temps-là. Voilà, ça se termine, 22h27. C'était en fait une émission enregistrée le vendredi qui précède. Et puis le mois prochain, on se retrouve ou pas, parce que c'est le mois d'août, peut-être que ça sera les vacances. Merci en tout cas énormément Fanny Lederlin, donc l'autrice du livre Les dépossédés de l'open space, une critique écologique du travail. Pour moi c'est vraiment un très grand livre, sincèrement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de livres pour moi qui qui vont compter. Et qui... Il y a un bouquin de Pablo Servigne qui s'appelle L'Entraide, qui pour moi est aussi une bonne référence. Et donc vraiment, j'encourage, parce que ça reprend les bases et puis ça analyse le monde dans lequel on est. Et puis voilà, ça donne une bonne base pour dire que la lutte n'est pas finie, parce qu'il y a des outils militants et des outils intellectuels derrière, et c'est ça qui donne de l'espoir. Merci encore.
Merci.
Et puis, puis j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser en chair et en os dans
Moi
un
aussi.
Espace.
Dans des luttes.
Dans des luttes, oui, sur des pavés.
Voilà.
Bonne soirée, au revoir.
Merci. Au revoir.